Cascodeur Podcast, épisode 296. Interview Google IAIAO 2023. Enregistré le 23 mai 2023.
Bonjour et bienvenue dans les Cascodeurs. Nous faisons une interview et ça faisait longtemps. Antonio va m'aider à interviewer une personne de marque.
Ah bon ?
Que dis-je de prestige ? Et c'est Guillaume.
C'est qu'on prend bien quand même, hein. C'est très consanguin, on s'interviewe de
nous-mêmes. C'était pas censé être consanguin, Guillaume, est-ce que tu veux raconter le backstage, comme on dit ?
Alors, donc c'est un épisode spécial sur Google I.O. 2023, donc, qui a eu lieu il y a une semaine et demie, et en fait, je devais l'enregistrer avec mes collègues. Enfin, je l'ai plus ou moins enregistré avec mes collègues au bureau, avec Valentin et Laurent, mais je leur ai fait perdre une heure et demie de leur temps. Parce qu'en fait, donc on a un petit enregistreur portable de marque Tascam, là, c'est super sympa et ça marche très très bien. À part que j'ai pas, en fait, faut appuyer genre longtemps sur le bouton enregistrer pour que ça enregistre vraiment. Alors je voyais le truc qui clignote rouge, tout ça, les niveaux qui bougent et tout. Ah oh, c'est bon, ça enregistre. Et à la fin de l'épisode seulement, je m'aperçois, oh merde, putain, j'ai pas enregistré. Oups. Ouais, du coup, j'ai trop désolé pour mes collègues de leur avoir fait perdre autant de temps.
Voilà. Mais en tout cas, t'as pu parler avec eux pendant 2 heures.
Ouais, c'est bien.
Et échanger. Et du coup, on va faire une. Tu vas nous raconter ce qui s'est dit en fait, comme si c'était un journaliste, qui a été.
L'avantage, c'est que nous, on n'est pas tes collègues de Google. On s'en fiche. On va vous casser. On va te casser l'interview.
Exactement.
Alors pour info, c'est pas appuyé longtemps, c'est 2 fois. T'appuies une fois, il clignote.
Ah non, c'est 2 fois. Ouais, ok.
Et une deuxième fois, il fonctionne.
Ah ok.
Bon, alors donc c'est Google I/O qui a eu lieu en mai, c'est ça ?
Ouais. Donc il y a une semaine et demie. Ouais. Donc ça a lieu en Californie, donc pas très loin des bureaux de Google, de la maison mère, dans l'amphithéâtre de Shoreline. Et il y avait quand même dans les 2000 personnes sur place.
Ouais.
Il y avait un espèce de chat.
Ah oui, c'est pas beaucoup, 2000 personnes sur place. Donc c'était beaucoup à distance.
Ouais, ça pourrait être plus. En plus, c'était surtout des Googleurs, plus des gens un peu triés.
On entendait que ça faisait la salle. Donc c'est le typique Apple où ils mettent 5 rangs de mecs d'Apple.
Mais tu étais, Guillaume, alors ?
Non, t'étais
physiquement. Ah, flûte, d'accord.
J'aurais bien aimé, mais malheureusement, non. C'est vrai qu'ils. Donc. Bah déjà entre tu sais les restrictions de voyage, aller aux États-Unis, faut monter à niveau je sais pas combien de la hiérarchie pour avoir un approval, pour avoir le droit d'y aller et tout, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis en plus donc les keynotes sont live, donc avec les 2000 personnes avec des journalistes triés sur le volet, des trucs comme ça, etc. Mais par contre les talks en fait ils sont pré-enregistrés, donc j'aurais pu participer et faire un talk comme j'ai fait genre les années précédentes. Mais c'est pré-enregistré et en fait, c'est disponible à la demande pour ceux qui sont en ligne, qui regardent YouTube et tout ça. Donc, l'expérience, à part certains qui étaient invités, sinon, c'était essentiellement en ligne avec les keynotes, tout ça en live sur YouTube. Et après, dès que les keynotes étaient passées, tu pouvais voir toutes les sessions qui t'intéressaient directement en ligne, quoi.
D'accord.
Et il y avait ça. Et puis, il y avait aussi une expérience. L'année dernière, il y avait une sorte de jeu en 2D, genre les vieux jeux en 2D où tu déplaces tes petits personnages et tout, tu pouvais discuter avec les attendees, ceux qui étaient là. Et là, c'était juste un chat, c'était un petit peu plus tristouné parce que du coup, il y avait beaucoup moins de gens qui venaient chatter. Mais bon, on verra si ça revient les années prochaines.
D'accord.
T'allais dire quelque chose, Emmanuel ?
Ouais, deux trucs. En fait, nous, là, il y a Red Hat Summit là, cette semaine.
Ouais.
Et c'est pas que les keynotes qui sont live, mais il y a une bonne partie qui est en préenregistrée. Donc moi j'ai fait une présentation préenregistrée, par exemple, et qui est dispo pareil en ligne, et le reste en présentiel.
Ah, mais c'est super triste en fait parce que cette semaine c'est carrément. MS Build, c'est Microsoft Build là, le gros truc, la grande messe développeur et tout. Et les vieux de la vieille disaient, il y avait jusqu'à 30 000 personnes à Seattle.
C'était mieux avant.
Et là, on est devant notre webcam. C'est triste.
grave.
C'est clair.
Du coup, Google I/O, c'est orienté développeur ou c'est orienté tout ?
Oh, si, c'est quand même orienté développeur. Alors, ouais. Historiquement, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, les années précédentes, il n'y avait pas beaucoup de choses sur, par exemple, sur le cloud. Et là, cette année, il y en avait plus. Mais sinon, historiquement, bah, c'est le web, c'est Android, c'est bah, Flutter et tout ça. C'est qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme sujet? Et là, c'était peut-être un petit peu plus mix. Ouais, il y avait par exemple quand même plus de cloud, plus de workspace, donc Google Docs et compagnie, plus de cloud, Google Cloud, etc. Donc, mais ça reste quand même pour les.
Workspace, c'est pas très développeur quand même.
Non, c'est vrai que c'est pas très développeur, ouais.
À part s'ils discutaient les API pour.
Ouais, non, ouais. C'est plus ouais, utilisateur, ouais, power mix, user, tout ça, quoi. Hmm. C'est vrai. Et ils avaient fait un petit jeu marrant en ligne, la IO Flip. Parce qu'en général, il y a toujours un jeu ou un truc qu'on peut faire aussi en ligne. Mm. Ils avaient fait ce jeu-là avec Flutter, avec Dart, avec Firebase et hosté aussi sur Cloud Run. Ouais. C'est le service serverless là, pour faire tourner des containers sur Google Cloud. Et en plus, c'est le big theme de la conférence, ils avaient même fait les graphismes avec de la Generative AI. Ouais. Donc là, c'était un peu la grosse mode. Et c'était un jeu de cartes, genre, vous savez, les Pokémon ou des trucs comme ça.
Il ouais, y a eu 847 comas éthyliques, des gens qui buvaient un coup à chaque fois que Generative AI était prononcé.
C'est à peu près ça.
Bon, allez, on va commencer par du hardware, comment dire en bon français, du matériel. Et donc, Google est revenu dans la... Parce qu'il y a eu un moment un petit flottement, mais Google est revenu dans la partie matérielle, notamment avec sa sous-marque Pixel. Donc, on connaît les téléphones, mais il y a aussi les tablettes. Et donc, raconte-nous, alors, qu'est-ce qu'il y a de beau?
Alors, du coup, il y avait trois téléphones ou tablettes annoncés. Pixel Fold, Pixel Tablet et Pixel 7a. Alors, le truc qui était quand même le plus... Waouh, c'était quand même le Pixel Fold. Donc c'est un petit peu aussi là comme les. Alors Google n'est pas le premier à faire ça. Il y avait Samsung, Oppo et tout ça qui ont fait des téléphones pliables. Donc vous savez, c'est les téléphones qui s'ouvrent comme des livres, pas ceux qui s'ouvrent comme les clamshell, là, les flips. Ouais.
C'est surtout pliable donc, et dépliable après. c'est ça la différence.
Pliable et dépliable. Ça y est, vous l'avez plié à 1900 balles. Et cher le pliage.
Et du coup.
Attends, 1900 balles.
Ouais, 1900 balles. Donc, personnellement, à part si Google m'en donne un pour le tester, je suis pas prêt à mettre autant d'argent quand même dans un téléphone. Je préfère acheter un ordinateur pour ce prix-là. Et en plus, il est pas disponible en France. Il est disponible au Japon, en Allemagne, aux États-Unis et je sais plus encore un autre pays, j'ai oublié.
D'accord. Et genre, il y a des markets de market.
Bah, apparemment, ils pensent que c'est les marchés où ça fonctionnera le mieux, hein, parce que au niveau, je crois qu'il est quand même plus cher que le Samsung, Oppo, je sais plus, il doit être aussi peut-être plus cher que le Oppo. Donc, ils vont, je pense, avoir du mal quand même à le vendre. Et c'est peut-être plus un produit vitrine pour montrer, regardez tout ce que vous pouvez faire pour encourager les autres constructeurs à faire pareil. Donc, à mon avis, on n'en verra pas forcément beaucoup, quoi.
Quand il se déplie, voilà, donc, il fait quelle taille?
Donc, il fait, je crois que c'est... Alors, tu sais, tu as l'écran face.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Et en plus, le double écran pliable à l'intérieur. Donc, tu n'es pas obligé, si tu veux, de l'ouvrir tout le temps, ce qui est chiant. Oui. Mais, je veux dire, pour les notifs, pour faire une petite réponse rapide, etc., tu n'es pas obligé de l'ouvrir. Donc, il reste, il ne prend pas de place dans ta poche. Et après, quand tu loues, tu vas regarder tes vidéos, tu vas avoir deux applications côte à côte, etc. Et
il est assez fin, quand on regarde les
images. Il est assez fin, je crois.
Alors après, ça double, mais...
Oui, chaque bande est fine. Ouais, il fait 0,5 cm, je crois, d'épaisseur une fois déplié, mais du coup, 1 cm plié. Donc, ce qui est assez épais pour un téléphone, mais en tout cas, pour un Fold, je crois que c'est le plus fin parmi ceux qui existent, je crois.
Je te raconte pas, là, les mecs qui font les coques, ils sont là, putain, comment on va faire?
Ah, les coques, ça va être compliqué. Et du coup, oui, pour les dimensions de l'écran, si je dis pas de bêtises, Antonio, je crois que c'est genre 6 pouces ou moins pour quand il est plié, et 7 ou 8 pouces, tu vois, déplié.
7,6.
En diagonale 4. 7,6, voilà. Et il y a plein de petites innovations sympas, en fait. Par exemple, il y a avec Google Traduction, là, donc tu peux le déplier, le tenir verticalement, et toi, tu parles dans ta langue et de l'autre côté, sur le petit écran qui est en face, celui qui est en face de toi, il va voir la traduction de ce que toi t'as dit et vice versa. Donc tu tiens ton truc face à l'autre et hop, tu vas voir.
C'est Babelfish, enfin. Enfin,
c'est bien fait.
On a Babelfish.
Et puis même, genre, tu sais, pour quand tu le tiens, alors du coup, on va dire la couverture de ton côté, tu peux faire des selfies avec l'écran de façade qui te fait face. Donc, tu vois exactement ce que tu prends en photo. Bon, attention à ne pas le faire tomber, parce qu'un grand carré de...
À 1900 balles, ça serait dommage. Ça fait chier.
Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, et puis si tu le mets un peu en mode, tu sais, laptop, appuyé sur, je sais pas, ton bureau ou un meuble ou n'importe quoi, tu sais, tu peux faire aussi des photos de groupe et puis poser dans différents angles et tout ça. Parce qu'en général, tu sais, tu essaies de poser...
Ah, ça fait un support, en fait. Il y a un des écrans.
Ouais, voilà. Au lieu de poser ça contre un vase, contre un truc, t'as peur qu'il tombe, ça glisse et tout. Ouais. Et ben là, hop, tu le mets bien en position laptop et ça te fait des photos. Donc, moi, je l'ai trouvé vraiment très, très chouette, mais bon... Très cher.
Ouais. Ok.
Ensuite, il y a la tablette.
La tablette, ouais.
Alors, la tablette, c'est une belle tablette de 11 pouces, bel écran, tout ça. Et qui, avec les nouveaux processeurs là, de Google, là, les Tensor G2, il y a le Chromecast intégré. Et ça ressemble vachement au Google Nest Hub Max. Vous savez, le Google Home avec écran et caméra et un gros pied avec un haut-parleur, en fait. C'est pareil, à part que cette fois-ci, l'écran, il s'enlève, quoi, et ça devient une tablette.
Ah est... oui, j'avais
ouais, moi j'en ai un à la maison.
Aimanté, c'est ça, c'est un
ouais,
peu.
Celui-là, il est aimanté, ouais.
Un peu aimanté où tu remets voilà. L'écran, oui.
Ouais. Donc un bel écran et donc quand il est en fait sur sa base, sur son dock, il fait comme l'appli Google Home où on peut contrôler ses devices, mettre de la musique, voir ses photos, etc. Et dès que tu le décroches, en fait, il redevient en vrai mode tablette. À part entière, et en plus, il y a le mode multi-utilisateur, ce qui veut dire que, par exemple, moi j'ai un iPad à la maison, mais il n'est pas multi-utilisateur, donc quand les gens l'utilisent, ils ont mon compte. Enfin, genre mes filles regardent des vidéos, des trucs comme ça. Tandis que là, je prends la tablette, je la décroche, ça devient une tablette avec mon compte, je me connecte avec mon compte, donc chacun son compte. Ça aussi, je trouve ça plutôt pas mal.
Et le processeur, là, G2, là, est-ce que ouais. Ils sont partis comme Apple, ça y est, maintenant ils ont leur processeur à eux et il y aura que des G2, G3, G4 à partir de maintenant?
Ouais, alors je crois qu'ils avaient fait, il me semble qu'ils ont travaillé avec Samsung à la base pour la première version. Je sais pas s'ils continuent pour le G2, mais c'est dérivé en fait, je crois ça doit être les Exynos ou un nom comme ça là de Samsung, je crois. Et à part qu'ils l'ont enrichi avec des cœurs et tout ça pour faire du machine learning, pour que ce soit plus rapide avec tous les trucs de machine learning qu'il y a un peu partout aujourd'hui dans Google Photos ou autre. Donc c'est une sorte de dérivé un peu custom qu'on fait, je crois, donc avec Samsung, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Les gars de Docker, ils vont galérer là pour déjà avec M1, M2, ils ont galéré. Il y aura G2, il y aura tout le monde fait ses processeurs aujourd'hui, c'est incroyable.
Ouais, mais après, tu peux pas forcément tourner Docker sur
la Pixel tablette.
Oh, wesh.
Bon, après, ça reste les instructions de base, elles sont ARM. Le processeur TensorFlow Docker, il l'abstrait pas.
Clair.
Alors bon, mais bon.
Après,
on n'a pas autant d'argent.
Si on n'a pas autant d'argent, il y a quand même le Pixel 7a qui doit être vendu 500 balles chez nous, avec un bel écran de 6 pouces. Donc, il y a aussi le même processeur et tout ça. Hein, triple appareil photo, avant, derrière, grand angle et tout. Donc, un téléphone, j'allais dire classique, quoi. Pas fold, pas machin, pas super... taille de ouf et tout, mais en tout cas, donc c'est les mêmes processeurs, par rapport au Pixel 7 Pro, il doit y avoir genre moins d'appareils photo et tout, mais c'est plus ou moins les mêmes, mais en tout cas, il est moins cher, donc 500€, c'est déjà plus mieux, et il y a les nouvelles fonctionnalités, là, par exemple, dans photo, donc Magic Eraser, c'était le truc, vous savez, qui enlevait les gens qu'on voulait enlever sur les photos qui étaient derrière. Là en plus, il y a
pour enlever tes ex.
Voilà. Il y a la fonction Magic Unblur qui, quand on fait des photos un peu floues, ça a bougé, un enfant qui bouge ou un truc comme ça, qui calcule en fait, qui recalcule l'image nette par rapport au mouvement qu'il a détecté dans le flou. Ah, c'est pas mal fichu. Et il y a aussi Real Tone, toujours avec l'intelligence artificielle, qui rend les peaux foncées plus naturelles et non pas, tu vois, quelqu'un qui est black, qui est super black, tu vois rien que les yeux. Là, ils remettent un ton de peau plus réaliste par rapport à ce que l'œil humain voit et non pas ce que les cellules photo bêtes voient, quoi. Donc voilà, Pixel 7a qui est pas mal. D'ailleurs, ma femme en a un. Elle était Trusted Tester et elle en est bien contente.
Trusted Tester, c'est pas mal ça.
C'est bien ça.
Ah, je suis Trusted. Et en plus, des fois,
je parle de rien du tout. Faire...
comme vous êtes mes amis, sachez que parfois, on a des programmes pour faire des Trusted Tester pour la famille ou les amis.
Donc, j'ai ça tombe bien, on est tes amis.
Bon, tu, tu parles des 10 000 amis qui nous écoutent ou tu parles...
Alors, pas jusqu'à ce point-là, parce que ça marche pas toujours, mais j'ai déjà réussi à avoir deux téléphones pour des amis, quoi.
D'accord. Alors, cool. Bah, du coup, tout ça, ça tourne sous Android.
Ouais.
Il y a le nouvel Android qui est sorti, alors, ou pas?
Alors, il est pas encore sorti, mais ils ont annoncé un petit peu les nouvelles choses qui allaient arriver, donc il devrait sortir plus tard, en fin d'année. C'est vrai que d'habitude, c'est plus aligné avec Google I.O., les sorties d'Android, mais là, c'est
pas Android clair. 14, hein, tu parles.
14, ouais. C'est le 14 qui sort. Donc c'est pareil, il est aussi truffé d'intelligence artificielle un peu partout. Par exemple, quand on fait des SMS, il y a Magic Compose qui va pouvoir générer vos SMS pour vous. Ou genre, tu fais un premier draft et tu dis « Ouais, mais tu peux le dire de manière un peu plus formelle ou de manière plus cool. » Ou genre, à la Shakespeare, il va t'envoyer des messages à la Shakespeare. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Encore plus d'occasions aussi... de ne pas regarder le volant quand tu conduis.
Voilà, c'est ça. Et on va pouvoir utiliser encore Generative AI genre pour customiser ton fond d'écran, genre créer tes propres images de fond d'écran, ou même créer des fonds d'écran à partir d'emoji. Et ce qu'ils ont fait sur scène, celui qui présentait, c'est qu'il a carrément fait une démo avec... donc, il choisissait des emojis, et il a choisi l'emoji... le caca.
Ah bon, carrément.
Et du coup, il a fait.
Vous faites ça maintenant à Google I.O.
Ouais. Bah, entre collègues, on se demandait, mais est-ce
qu'il faisait ça, mais en fait, il a été viré de masse, mais tout ça.
Oui, parce que.
Mais du coup, on se demandait s'il l'avait prévu. Parce que. Est-ce qu'il avait prévu de montrer celui-là ou c'est quand il était. Parce que ça, c'était en live, hein, cette partie-là.
Ouais.
Et du coup, est-ce qu'il l'a fait en live? Il s'est dit, allez hop, je vais mettre celui-là pour rigoler. Ou est-ce qu'il l'avait vraiment prévu? Ça, je ne sais pas.
Oui, parce que vous avez. C'était l'année dernière, non? Où il y avait une démo totalement foireuse, le téléphone était perdu, je ne sais pas trop quoi. La stock avait perdu 100 milliards de dollars.
Ouais, non, c'était. Bah, en fait, quand ils avaient annoncé certains trucs déjà autour de l'AI, et c'était à Google Paris d'ailleurs qu'ils avaient fait ça. Et donc il y avait une des personnes qui devait faire la démo et qui attendait. Bah, normalement, il y a le téléphone pour faire la démo et oh, bah, il n'y a pas de téléphone. Et je sais pas trop, j'ai pas le temps d'histoire si c'était genre un méga fake ou en fait il n'y avait pas de démo ou c'était pas vrai.
Je sais pas, mais le gros truc c'était que l'action le lendemain avait perdu X%, tu vois.
Ouais, non, c'est vrai.
Donc,
c'est
là où ils avaient annoncé Bard dans la semaine et tout ça, là, c'est cette période.
Ouais, c'est ça, ouais. Ils avaient annoncé ça, bah, ils avaient annoncé Bard effectivement. Et
alors, on voit qu'en 6 mois, il y a eu bon, alors on prend la couleur Generative AI et on repeint. Qu'est-ce que tu peux faire en Generative AI sur ton projet de. Pour laver la voiture, je sais pas.
Et justement, alors avec l'AI, là, ils ont sorti aussi Studio Bot, qui est un chatbot en fait qui est intégré à Android Studio pour aider au développement d'applications. Donc, on peut chatter avec le bot, il peut rajouter du code dans, je sais pas, rajoute-moi
un peu copilote, mais pour Android.
Le copilote, mais qui a été vraiment entraîné sur sur la doc d'Android, sur les code base, sur les samples, etc. Mm-hmm. Pour qu'ils génèrent du bon code fine-tuné, tu vois, avec un modèle fine-tuné sur ce code-là, quoi.
Ouais, d'ailleurs, on en reparlera après, mais la sur-spécialisation des modèles, comment ils appellent ça, les modèles
Les large language
foundational models.
Foundational models, voilà. Ouais.
On en reparlera après, je crois.
Ouais, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait quelques chiffres qui ont été annoncés. Il y avait 800 millions d'utilisateurs qui sont passés à RCS, donc c'est le nouveau format pour les SMS MMS, donc qui est plus comme du chat avec t'es en train de taper, etc.
Ils veulent faire la nique à WhatsApp.
Ils veulent faire la nique à iMessage, mais.
Voilà, et du coup, ils ont fait aussi en live, si d'autres fournisseur de téléphone portable avec d'autres OS pouvait s'y mettre aussi, ça serait cool. Et voilà, un gros nudge à Apple, mais je sais pas, Apple, ils ont pas l'air vraiment décidé de...
Ils ont leur propre truc, iPhone, hein, c'est ça ?
Non, mais RCS, c'est un standard, enfin, en tout cas, ça va être poussé par Google, mais sous forme de standard, alors que iMessage, c'est pas un standard, c'est un...
C'est ça, ouais. Et c'est supporté RCS par les providers, enfin les Orange, les...
Oui, d'accord. Oui, parce que si t'es tout seul à implémenter le standard, c'est un peu dommage.
Ouais. Comme on parlait des foldables, ils ont adapté pas mal d'applications Android, les applis stock Android et tout ça,
au
format foldable.
Je fais la traduction, en fait. Je suis l'intelligence artificielle qui vient en français.
du coup, ça va s'adapter, genre, quand tu veux faire du copier-coller entre deux trucs, ou les vues, genre, quand tu regardes YouTube, par exemple, quand tu le déplies en mode laptop et que tu le poses, t'auras genre la vidéo on va dire 16/9 sur une partie de l'écran, et sur l'autre partie, tu vas pouvoir avoir les contrôles pour faire pause, aller plus loin et tout. Donc, ils essaient de repenser un petit peu le layout visuel des composants et tout, pour que ce soit vraiment adapté à ce type de format-là.
C'est rigolo parce que ça me rappelle... Enfin, je pense que ça marchera mieux, mais ça me rappelle la barre multi-touch des portables Apple, là, qui était en fait... pas très pratique, quoi, du tout.
Bah, en fait,
et qui avait cette idée de, genre, on t'amène exactement les outils dont tu as besoin.
Je pense que ça s'applique mieux quand même au téléphone, aux tablettes, etc. Tandis que sur les Mac, en fait, t'es tellement rapide avec tes doigts sur un putain de clavier, tu sais où sont les touches. Ouais. Quand t'as un truc touch machin, en fait, tu peux pas vraiment savoir où tu tapes, quoi, avec tes mains. Alors que là, tout est touch de toute façon, donc t'as pas vraiment le choix. Donc je me dis, c'est plus pertinent, on va dire, pour les.
Ça me rappelle la Nintendo, la DS, quelque chose.
Non, c'est pas la Wii. Ah, aussi, la DS.
Il y a deux écrans et du coup, ils travaillaient avec ces approches-là.
Ouais, non, c'était sympa, c'est déjà.
Ok. Oh là là, il y a Wear OS. Il y a encore des
montres. Ouais, Wear OS 4.
Et... ça suit encore, ça.
Ouais. Tu sais, il y a la Pixel Watch aussi, je crois, ce qu'on avait annoncé l'année dernière. Là, ils ont parlé des nouveautés aussi par rapport au backup et restore. Donc, par exemple, quand tu changes de montre, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de backup restore. Genre, tu changes de montre, tu es obligé de tout réinstaller, etc. Là, ça a l'air d'être le truc qu'ils ont mis, en tout cas, le plus en avant. Après, je ne veux pas trop regarder, vu que j'ai pas de montre Android. Moi, j'ai juste des montres de course à pied.
Ah, c'est pour les montres. Je croyais que c'était
les
pour...
Les montres,
ouais. Je croyais que c'était pour les vêtements connectés, tu sais, il y a eu...
Ah non, ça, c'est abandonné, ça. Jacquard.
Oui, d'accord.
Non, ouais, il y a ça. Après, il y a plein de petites améliorations, je crois, graphiques et autres, des contrôles, des choses comme ça. Mais c'est pas une version, a priori, super majeure. Côté Android la télé, hein, Google TV, là, ils ont rajouté 800 chaînes gratuites de Google TV disponibles sur Android. Et aussi, quand Android est dispo sur la voiture... Alors, j'espère que c'est pas en conduisant, parce que si tu peux regarder 800 chaînes en conduisant, ça va être compliqué. Et ils poussent Android Auto aussi vers toutes les voitures supportant Android, donc 200 millions de voitures dans le monde, a priori, qui peuvent recevoir les dernières versions d'Android Auto. Et ils poussent aussi également Waze, donc plutôt que seulement le Google Maps, on peut avoir Google Waze sur Android Auto. Mais déjà, enfin... Ce que je comprends pas trop.
C'était vrai de certains, là, déjà. Enfin, parce que j'ai loué une voiture ce week-end et il y avait.
Ouais, sur ma voiture, quand je branche mon téléphone, j'ai Android Auto, j'ai Waze, j'ai mes applications. Donc, je sais pas trop, est-ce que ça va être intégré aux voitures qui sont déjà Android Auto, mais sans téléphone? Alors qu'avant, ça ne l'était pas et ça ne l'était que quand tu as ton téléphone de brancher. Je pense que c'est ça, mais je suis pas un grand connaisseur pour vraiment savoir. Ouais.
Mais tu sais, à propos des films, j'ai un pote, il a une Tesla et il me montrait Netflix. Tu sais, je lui dis, tu regardes Netflix pendant que tu roules? Il me dit, mais non, en fait, pour charger à bloc une Tesla, c'est 40 minutes. Donc il dit, je m'installe, je regarde un film et puis il charge ma bagnole. Tu dis,
Faut bien ça. C'est pour ça. Ça fait sens maintenant.
Et ouais, quand t'attends avec, quand t'attends avec les enfants, c'est pas mal aussi.
Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, vu qu'on parle de, on va dire de direction, etc. Google Maps. Donc là, ils ont parlé de Google Maps, des mises à jour, et ils ont annoncé un chiffre que j'ai trouvé amusant. C'est que Maps propose 20 milliards de kilomètres de direction tous les jours. Ce qui est quand même pas mal, ouais. 20 milliards de kilomètres.
Ah oui, de direction, c'est-à-dire quand tu dis je veux aller d'un point A à un point B.
Ouais, et ben en, si tu fais la somme quoi, de toutes les directions qu'ils ont demandé, tous les plans, ça fait 20 milliards de kilomètres par jour. Donc c'est plutôt rigolo.
Ça fait quelques tours de la planète, ça.
Ouais, ça fait 3 millions de tours de la planète.
3 millions de tours de la planète.
Ouais. Ça use les souliers.
C'est quoi le périphérique? C'est bien 6700, non?
Le périphérique.
La circonférence de la Terre.
La circonférence de la Terre, ça
Parce que je disais, non, le périphérique à Paris, c'est 30
secondes. Le rayon, c'est 6000, et le périphérique, ouais. La circonférence, c'est 12 000.
Bon, alors, c'est 1 million.
Non, je dis une connerie, c'est le diamètre, ça. C'est 40 000 km. Oh, je dis n'importe quoi. 40 000 km, le diamètre, c'est 12 000, et le rayon, c'est 6 000. Oh, je connais plus mon Pythagore.
C'est pas à ChatGPT. Hein.
Donc, ça fait que 500 000 tours de la Terre.
Ok, pas mal, mais par jour.
Non, mais c'est fou parce que à mon fils, il aime bien les cartes, donc on lui a acheté un atlas Michelin en papier.
Ouais.
C'est là que tu dis, on sait bien, il va apprendre à lire les cartes, etc. Mais il y en a de moins en moins, en fait, quasiment plus.
Ah ouais. Déjà has-been.
Lecture de cartes, quoi.
C'est clair, on sait plus lire. Bref. Les cartes. Ils ont annoncé les immersive view pour les routes, donc pour les directions qu'on lui demande, et qui fait une sorte de méga vue 3D comme si tu survolais le parcours et tout. C'est pas mal fait. Par contre, c'est dispo que dans c'est joli, mais tu vois, c'est dispo que dans les grandes villes où t'as des détails 3D, tu vois, pour les villes. Donc,
c'est pour se projeter un peu sur le chemin, mais c'est peut-être pas en live quand tu conduis, mais peut-être avant pour voir un peu là où tu vas aller, c'est ça?
Ouais, ouais. Je crois qu'ils rajoutent aussi des petites, tu sais, par exemple, quand t'as les rues, ils te rajoutent en fait du trafic aussi en fonction du vrai trafic qu'il y a dans les, au moment où tu fais l'estimation de trajet, quoi.
L'année prochaine, donc, ils mettent les vraies voitures qui sont devant avec.
Ouais, avec les plaques d'immatriculation et tout. C'est ça. On sait qu'il y a un utilisateur Waze dans celle-là et tout.
Ah, ça y est, une info pour les développeurs. Donc, on peut rajouter des choses dedans, nous,
en tant que développeur. Donc on va pouvoir faire, du coup, ces vues en 3D. Genre, imagine, je sais pas, t'es dans l'immobilier, tu veux montrer, voilà, là, il y a tel bâtiment, je sais pas, tel bien à vendre, je ne sais quoi, ou une ville touristique qui va dire, là, il y a telle et telle chose à voir. Et apparemment, donc, les développeurs vont pouvoir ajouter leur propre couche, leur propre petit truc 3D. Au-dessus de ça, il y avait une démo qui montrait, il y avait un petit avion qui survolait en 3D la ville, quoi.
Donc, Guillaume, mais là, tu parles de Immersive View, c'est ça?
Donc, en fait, ouais, c'est un truc à part. Je crois que c'est que dans Immersive View, tu peux avoir ces augmentations 3D là, a priori. Si j'ai bien compris.
Et ça, c'est sur téléphone et ordi ou c'est...
Je pense que c'est dans tous. C'est une bonne question, ça. En fait, je sais pas. Je pense que c'est dans les deux, j'imagine. Ouais.
D'accord. Alors, on vous l'a pas dit, hein, mais évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Sinon.
Qui génère, j'imagine qu'il régénère ça. Donc, en fonction, tu sais, quand tu utilises Google Street View et que tu te promènes. Je pense que ça utilise toutes ces photos-là, les vues satellites, les vues photos... Tiens, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai vu une Google Car là, qui photographiait en Street View la rue à côté de chez moi. Et donc, ils utilisent certainement ces données-là, plus des modèles 3D à la Unity et autres, pour pouvoir représenter ça de manière quasi réelle. Quoi. C'est assez bluffant.
Ok.
Voilà pour Maps.
Alors, Google Photos, on a parlé de pouvoir enlever des gens, de déflouter.
Ouais.
De déflouter des gens.
Et là, il rajoute une sorte d'éditeur de photos assez smart, encore survitaminé avec l'IA. Et il montrait des démos où, par exemple, il y avait un enfant qui était photographié avec des ballons, mais il était mal cadré, les ballons étaient coupés, etc. Et en fait, il sélectionnait le gamin avec ses ballons. et il déplaçait en fait le gamin avec ses ballons au centre de la photo et il régénérait les ballons coupés. Il finissait de les dessiner quoi, alors qu'ils n'étaient pas dans
le. Il agrandissait le banc. Ouais, c'était assez.
Ils agrandissaient le banc. Il y avait une dame, je sais plus là, qui voulait faire semblant, qui était devant une photo d'une chute d'eau et c'était mal. En fait, c'était pas dans le bon axe. Et il voulait montrer que l'eau est tombée directement dans sa main. Tu sais, quand tu fais, genre, tu mets le doigt sur une tour, tu tiens la tour de piste pour pas qu'elle tombe, etc. Bref. Et du coup, ils ont réussi à bouger la dame pour que sa main, ou la chute d'eau, je sais plus, pour que sa main tombe bien alignée avec la chute d'eau.
Punaise. Après, moi, ce
que
j'aime
pas trop, c'est que, est-ce que c'est vraiment la réalité? C'est plus vraiment la réalité que t'as photographié que je... Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Quand même.
Ah, mais c'est philosophique, ça. Est-ce que la photo est la réalité?
Ouais. Ceci n'est pas une pipe, souvenez-vous.
C'est ça. Mais moi, tu sais, je me fais toujours chier à essayer de trouver les angles où il y a le moins de monde, etc., pour avoir l'impression qu'il y a moins de monde. Mais au moins, je sais que c'est quand même la vraie photo. Plutôt que là, c'est toujours un peu triché. Tu te dis, bah, il y a des morceaux de la photo. En fait, ça n'existe pas. C'est une intelligence artificielle qui l'a rajouté.
Moi, j'ai tué l'expérience.
C'est que pour faire ça avant, il fallait être un crack de Photoshop.
De Photoshop.
Là, maintenant, c'est clic, 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 quoi. C'est assez bon.
D'ailleurs, Photoshop, ils ont fait beaucoup d'améliorations autour de. Je pense qu'ils savent faire à peu près, voire plus.
Ils utilisent ces choses-là.
Oui, mais il faut que tu cliques 30 fois et puis que tu. Non, maintenant,
dans Photoshop, il y a de l'intelligence artificielle. Qui a simplifié tout ça.
Ouais, carrément.
Good. Alors, on va. Ouais, d'ailleurs, je me demande si les gens qui ont classiquement coupé les têtes des gens sur les photos, si ça peut corriger ça aussi.
C'est coupé.
Allez, on va passer à des projets expérimentaux avec là encore beaucoup d'intelligence artificielle. Cela dit, le premier, c'est pas ça. Et ça m'a un peu bluffé. J'ai juste regardé la photo.
Ouais, projet Starline, ils en avaient parlé, je crois, déjà à I.O. l'année dernière. Il y avait un premier, on va dire, prototype. Donc, projet Starline, en fait, c'est pour améliorer finalement les conf calls ou les réunions. Et en fait, tu as une sorte de grand écran devant toi où tu peux voir ton interlocuteur, mais en 3D. C'est-à-dire que
c'est assez
si
bluffant.
Tu te penches à gauche, à droite, tu vois la personne qui bouge dans un angle différent, quoi. Donc, tu as vraiment l'impression d'avoir la personne devant toi. Et là, la grosse nouveauté, en fait, avant, il fallait genre toute une pièce avec des caméras de partout et tout pour que ça fonctionne bien. Et là, il suffit juste de quelques détecteurs, je sais pas quoi, infrarouges pour le depth of field, comme on dit en français, la détection de profondeur de champ.
Ouais.
Profondeur de champ, exactement, et quelques caméras pour vraiment avoir les vues un petit peu sous différents angles. Et c'est comme s'il régénère une sorte d'avatar 3D, mais super réaliste de toi. Et du coup, t'as vraiment l'impression d'être en face des gens. Donc, j'imagine, tu vois, les gens qui font la langue des signes et tout, ça doit être vachement plus réaliste de signer avec quelqu'un en face de toi, de voir les expressions du visage et tout. Ça doit être vachement plus réaliste. Et du coup, ça prend beaucoup moins de place. Donc, peut-être qu'on va pouvoir voir arriver ça dans nos salles de réunion, dans les entreprises, etc. Ça sera peut-être pas tout de suite pour le commun des mortels, parce que ce sera certainement peut-être encore assez cher, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont bien progressé là-dessus.
Je suis curieux de l'intérêt, si je vous regarde vous, tu vois, est-ce que ça me projette vraiment et que je vous sens là et que du coup ça change l'interaction ou pas vraiment encore ou si c'est une première étape.
Après, si tu as pris quelques kilos, tu verras peut-être plus le ventre arrondi ou un truc comme ça. Je sais pas si t'as vraiment envie de voir ça. Je sais
ouais,
pas.
C'est ça.
À voir.
Si, surtout si tu montes en dessous et tu en vois qu'il a pas mis de pantalon.
Oh là là. Effectivement.
Alors, bon, sinon, il y a un traducteur universel qui fait doublage et qui fait bouger les lèvres, c'est ça?
Ouais, en fait, ils ont montré avec une démo, donc tu as une dame. Qui
c'est des projets expérimentaux.
Oui, c'est des projets expérimentaux. T'as une dame qui parle dans une certaine langue et en fait ils prennent la vidéo, ils te font la traduction de ce que la dame est en train de dire, enfin monsieur n'importe quoi, mais en tout cas dans la vidéo c'était une dame, et ils vont te la traduire dans une autre langue avec une voix vraiment très réaliste. C'est les nouveaux modèles de génération de voix encore plus humaines. Même que les modèles WaveNet, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple ce qu'il y a dans nos téléphones maintenant, les Google Home, etc., c'est des voix assez réalistes, mais on sent que ça reste encore c'est un petit peu robot dans le sens où on fait la voix va pas faire de pause, il va pas y avoir les bruits de, je sais pas, de respiration, de tics de langage, etc. Et là, ils arrivent à utiliser des modèles de voix, mais super réalistes. Et en plus, ils ont adapté, alors je sais pas s'ils adaptent la vidéo ou juste la prosodie, la rapidité de la voix, etc. Mais ils arrivent à adapter la traduction avec les mouvements d'élèves. Donc, tu as vraiment l'impression, même si l'élève dit quelque chose dans une autre langue, ils arrivent à se caler par rapport au mouvement d'élèves pour que ça ressemble encore plus à ce que... Parce que nous, je sais pas, tu regardes du doublage d'un film au ciné, faut vraiment regarder quand même que la personne est doublée. Mais si tu regardes bien l'élève, tu vas t'apercevoir, ah ouais, non, il n'a pas dit la même chose. Mais là, ils arrivent à retoucher ou à aligner les mots avec la voix, quoi.
D'ailleurs, on avait déjà fait l'expérimentation dans les cascodeurs d'Evox. Avec Antonio. D'ailleurs, ça se voyait que les lèvres, bon, elles bougeaient.
Ça, ouais. Et
puis la vidéo était générée, hein. Mais les lèvres bougeaient, ouais. Mais bon, c'était un peu.
Je crois que tête à claque,
en fait. Je sais pas si c'est pour ceux qui ont vu les têtes à claque avec juste les lèvres qui bougent.
Oui, oui. Un peu ça. Je serais curieux de voir quand est-ce que tout ça arrivera sur les films mainstream, tu vois, parce que la France aime bien doubler par rapport à d'autres pays, et je me demande, tu vois, parce que là, t'as une personne avec des lèvres, enfin deux lèvres, ouais. Mais tu vois, une foule où t'as 15 acteurs, tu vois, t'as 30 lèvres qui bougent en même temps, waouh, wow, ça va être assez balèze.
Ouais, mais si tu le fais off, parce que là, c'est asynchrone, là, c'est pas en direct.
Oui, bien sûr.
Donc, why not, mais après, c'est surtout les doubleurs là, en fait, quand est-ce que il va y avoir 50 voix sur le marché et qui vont en prendre une
et qui vont faire toutes les
Vous avez vu la voix de Darth Vader, où l'acteur a vendu sa voix, c'est-à-dire qu'il a 90 ans, le mec, je crois, et bah on pourra entendre la voix de Darth Vader encore dans 50 ans ou 100 ans.
C'est pas Bruce Willis aussi qui a fait ça, d'ailleurs, qui a vendu les droits de son image, de sa voix et tout ça aussi, hein, vu qu'il a des problèmes de santé, pour qu'il y ait des nouveaux films avec Bruce Willis, je crois.
D'accord.
C'est ouf.
Waouh, ça va être intéressant.
Après...
Ah non, je passais à la suite. Sinon.
Non, j'allais juste dire une petite remarque aussi. Donc, ce sera pas forcément. Donc là, ça reste à l'état de projet pour l'instant. Mais par exemple, les nouvelles voix générées très humaines, on ne donne pas ça non plus accès à n'importe qui, parce que évidemment, on peut imaginer des fake news où je sais pas, il y a Macron ou Trump ou je sais pas qui dit des conneries, et on a vraiment l'impression que c'est eux qui le disent avec leur propre voix, quoi.
Donc, moi, pour un projet perso, là, ça fait quelques semaines que je m'intéresse au voice cloning.
Ouais.
Quand on speak English avec un little French accent, c'est pas encore top. Mais j'ai déjà expérimenté des plateformes qui commencent à être pas mal, hein, et pas très très cher. Et c'est vrai que je le faisais écouter à ma fille. Elle a bien vu que c'était pas moi, mais quand même, elle a dit ah ouais, c'est pas mal.
Yes.
Sinon, le projet d'après, c'est le projet Tailwind. Dans la keynote, ils expliquaient qu'ils ont démarré ça il y a quelques semaines. Donc, ils ont, mettons 8 semaines. Et en 8 semaines, ils sont arrivés à ça à partir des modèles ou des API fondamentales disponibles. Ouais. Alors, c'est quoi ce fameux truc?
Donc, c'est une sorte de... Bon, donc, c'est une appli web, c'est une sorte de notebook dans lequel, en fait, il y aura un chat intégré. Et on va pouvoir rajouter des documents. Donc, par exemple, on va prendre dans Google Drive, un PDF, un fichier HTML, un doc, etc. Tu crées en fait ton propre corpus, ta base documentaire, et tu vas pouvoir discuter avec tes documents, avec tes informations. Donc, demander, qu'est-ce qu'il dit déjà dans ce document? Qu'est-ce que fait cette entreprise dont parle ce spreadsheet-là, ou je ne sais quoi? Et en plus d'intégrer dedans, il va y avoir aussi donc il y a la partie compréhension évidemment, mais il y a aussi de la partie génération. Donc on va pouvoir dire tu pourrais me faire un résumé de tel document. Là, tu pourrais me générer une histoire qui ressemble à tel autre document qu'on a mis dans sa base. Et on va pouvoir l'utiliser aussi un peu comme un outil de brainstorming. Donc c'est un petit peu comme un Notion. Notion, ils ont pas mal rajouté aussi des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc, on retrouve un petit peu peut-être les mêmes idées. Et c'est ça peut être intéressant, voilà, pour brainstormer, pour trouver des idées, pour quand t'es obligé de faire des exposés sur des sujets à l'école ou autre, ça peut être sympa.
Ouais.
À voir comment ça évolue.
Donc on a ChatGPT qui nous répond à nos questions, on a Modèle Diffusion qui nous génère des images, et maintenant on a la musique.
Musique LM, donc c'est un Large Language Model qui génère de la musique à partir d'un texte, d'un prompt. Donc on va dire, tiens, j'aimerais un truc plutôt jazzy, mais peut-être un petit peu triste, qui ressemble un peu à tel style, etc. Et il va générer de la musique. Donc c'est encore en waitlist, on peut pas tous l'utiliser, même moi d'ailleurs, j'ai pas réussi à y avoir accès. Et ouais, tout à fait. Donc ça reste, voilà, toujours des projets expérimentaux. Apparemment, bon, ça marche quand même mieux avec genre de la musique classique ou de la musique électronique. Donc c'est peut-être moins encore crédible pour d'autres types de musique, genre, je sais pas, jazz pour Antonio, etc. Mais en tout cas, c'est sympa de voir qu'ils arrivent aussi, du coup, à générer n'importe quoi, y compris de la musique. Pourquoi pas?
Ouais. D'ailleurs, c'est les musiques d'attente dans les salles de Devox qui étaient.
Oui, ça, je pense que tu peux l'automatiser, ça, c'est bon.
Project Gameface.
Alors, Project Gameface, ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait. Donc, c'est un système qui analyse les expressions du visage pour aider, donc en particulier les gens qui ont perdu leur mobilité, à contrôler finalement des ordinateurs, ou je sais pas si ça marche aussi avec les téléphones, ou quoi, je crois que c'était, ils montraient avec des ordinateurs, et la personne qui peut plus utiliser une souris, qui a perdu l'agilité, ou qui simplement ne peut pas du tout utiliser ses mains, va pouvoir utiliser à la place je sais pas, tu hausses un sourcil, tu ouvres la bouche, tu fais une grimace ou je ne sais trop quoi, des expressions du visage pour pouvoir contrôler le pointeur de la souris à l'écran. Et la personne qui montrait, en fait, elle aimait bien jouer aux jeux vidéo avant, et du coup, grâce à ça, grâce aux grimaces et tout, la personne est capable de jouer à nouveau à des jeux vidéo alors qu'elle pouvait plus le faire, quoi. Elle avait perdu la mobilité des mains, quoi. Donc c'est assez sympa. Après, je me dis, ça doit être assez rigolo à voir, tu sais, si t'as configuré des expressions du visage rigolotes et tout, genre tu fais une grimace pour cliquer ou je sais pas quoi, quand t'as tes amis, là, ta famille autour, ils doivent rigoler en te voyant faire les grimaces. Mais franchement, enfin, vous imaginez pas comment ça doit être libérateur de pouvoir être indépendant et être capable de gérer soi-même des choses, quoi. Donc tu combines ça avec des assistants, tu combines ça avec des robots, je ne sais quoi, et t'as un petit peu plus d'autonomie que tu pouvais en avoir avant. Ça doit être vraiment libérateur, quoi.
Il y avait des choses un peu comme ça déjà depuis un certain temps, de suivre le regard, etc. pour essayer de manipuler.
À Google I.O. aussi, l'année dernière, ils avaient montré, justement, c'était sur Android, un système où, un petit peu, j'allais dire, à la Tinder, où en fait, quand tu regardais à gauche ou à droite, ça sélectionnait des mots, des expressions que tu utilises souvent, ou après, que tu pouvais choisir précisément. Et en fait, vu que c'était une dichotomie, à chaque fois, en log N, tu arrivais très rapidement à avoir une conversation normale. Oui, parmi, voilà, oui, non, et ça sélectionnait des mots, des phrases, etc. Et du coup, c'est là, ça va encore plus loin, parce que c'est pas simplement juste un geste gauche-droite, mais tu peux carrément contrôler un ordinateur. Donc, on voit, enfin, j'étais un petit peu en relation à l'époque où j'ai passé 4 ans à apprendre la langue des signes, donc je suis toujours pas fluent, mais en tout cas, j'avais eu l'occasion de rencontrer des équipes qui travaillent sur l'accessibilité à Google. Et je trouve ça génial qu'il y ait pas mal de monde quand même, des centaines de personnes qui travaillent sur des sujets d'accessibilité pour tout type, en fait, de problèmes, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit la mobilité physique, quoi. Je trouve ça génial. Et je pense à Antonio aussi, chez Microsoft, tu sais, par exemple, les contrôleurs de jeux vidéo, vous avez fait des super trucs aussi, pour ceux qui ont encore un peu de mobilité dans les mains. J'aime bien le fait qu'il y ait quand même les grosses boîtes qui utilisent un peu de leur argent et de leur cerveau, en tout cas, pour faire avancer le sujet de l'accessibilité.
Je me suis toujours même demandé, parce que la vision, l'ouïe, tout ça, ça paraît hyper complexe hein, quand même. Mais je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas encore des traducteurs de langue des signes. Tu sais, où tu écris un texte et ça traduit. Tu vois, est-ce que c'est si compliqué que ça ?
Très compliqué.
Est-ce que tu as la gestuelle, mais tu as la bouche aussi ? Enfin, tu as plein de paramètres qui entrent en jeu. Mais je me dis, tiens, c'est, quand même, c'est quand même étrange qu'on n'ait pas ça. C'est que ça doit être assez balèze.
C'est très compliqué. Là, justement, je ne sais plus, cette semaine, je crois qu'on a... y a un article qu'on a sorti sur le blog de Google qui parle justement de... en fait, c'était un projet qui avait été mis sur Kaggle pour essayer de trouver le meilleur modèle de machine learning, donc avec un gros prix à la clé, pour reconnaître, ne serait-ce que... Donc, il y a l'alphabet qu'on peut faire avec les mains, avec les doigts, pour être capable de reconnaître ne serait-ce que l'alphabet en langue des signes. Rien que ça, c'est déjà pas évident.
Ah ouais,
alors, la vraie langue des signes, c'est pas seulement des lettres, mais c'est vraiment des mots. Mais pas que des mots, il y a plein d'autres choses qui sont importantes. Il y a effectivement les expressions du visage. Par exemple, moi, si je dis bonjour ou si je dis merci, c'est le même signe, mais l'expression du visage n'est pas la même. Un autre aspect qui est super important, en fait, c'est que la langue des signes, la grammaire, c'est une grammaire en 3D, en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire le même verbe, je sais pas moi, grimper à l'arbre, tu vas pouvoir le faire genre comme si tu étais en train de grimper toi à l'arbre, ton petit bonhomme il grimpe à l'arbre, enfin non, toi tu grimpes à l'arbre, genre tu montres avec tes mains que tu es en train de grimper, ou alors tu symbolises un petit bonhomme qui grimpe à l'arbre. Et en fait, tu as deux vues, tu as la vue personnifiée, on va dire, et la vue externe. Non seulement tu as ça, tu peux avoir des changements de point de vue différents, c'est-à-dire suivant si tu regardes de gauche ou de droite, ça va signifier que c'est telle ou telle personne qui parle ou qui interagit ou qui regarde à gauche, etc. Donc l'importance de la 3D, de la position, du positionnement du corps et aussi même de l'amplitude de tes gestes. Donc si par exemple je dis grand, tu sais, tu mets ta main un peu pliée en hauteur pour dire « ah, ça c'est grand », mais en fait, si tu fais des expressions du visage, t'exagères le mouvement, c'est super grand, et ben ça veut dire gigantesque. C'est le même signe, mais la manière dont tu le signes va pouvoir représenter l'intensité. Donc, t'as une, si tu veux, en français, tu vas avoir différents mots, grand, géant, gigantesque, mais en langue des signes, c'est pas discret, c'est linéaire finalement. C'est comme si tu avais une infinité de mots en quelque sorte pour dire c'est très 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 grand ou un petit peu grand, tu vois.
Mais donc c'est marrant, c'est très riche et très compliqué. Que tu parles des mains et de l'alphabet, parce que je lisais un papier sur la difficulté de Dali et Midjourney à générer des mains. C'est, il y a toujours ces superbes photos c'est avec Trump, Obama, puis en fait, ils ont quatre doigts ou six doigts. Et en fait, il disait que les visages, c'est assez simple. T'as deux yeux, un nez, une bouche. Et la main, en fait, c'est très complexe. Et donc, Midjourney était en train de prendre des milliards de photos de mains, tu vois, dans tous les sens pour améliorer la génération d'images de mains.
Ouais, j'imagine que le visage, c'est assez plat.
Oui.
Ouais. Alors que les mains, ta position, tu la bouges un petit peu, ça ressemble pas du tout, quoi.
Ouais.
Il y a aussi des questions de sampling, c'est-à-dire en général, les modèles, en fait, ils commencent avec des petites images. Ils vont faire, par exemple, du 128 par 128. Pour le visage, on a souvent des visages qui sont en plein écran. Je veux dire, t'as juste la tête qui rentre dans ton carré, quoi. Alors que des mains, souvent, tu les vois de loin. Et en fait, quand ils font du sursampling, alors... si vous aviez la vidéo, vous verriez un très beau geste de la main d'Emmanuel, mais
en plein écran,
c'est un podcast audio. Et du coup, en fait, je pense aussi que c'est lié à ça, parce qu'en fait, après, il super scale l'image pour faire du 1024, 1024, 512, 512. Mais du coup, tu parles de peu de pixels pour générer ton truc, et souvent, les images des mains, elles sont en petit sur l'image. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Au scaling d'images et des petits samples à la base. Du coup, c'est pour ça que c'est important effectivement d'entraîner les modèles sur des zooms de mains, quoi. Et c'est vrai que Midjourney et tout ça, ils ont fait des progrès mais monumentaux là-dessus, quoi. Allez.
Ensuite, il y a Visual Blocks qui, alors ça c'est intéressant, c'est développer des modèles donc TensorFlow mais graphiquement en fait.
Ouais, TensorFlow, Lite et JS. Du coup, en fait, c'est un peu, vous savez, comme bah, soit dans les éditeurs de jeux vidéo, soit dans les trucs de, d'audio aussi avec des effets, les synthétiseurs, etc. Vous avez des boîtes que vous allez brancher les unes aux autres pour faire différentes choses. Par exemple, sur des photos, ça va être détourer la personne, ça peut être appliquer un effet, un shader, ça peut être plein de choses. Alors, ça fonctionne sur du texte, sur des vidéos, je sais plus s'il y a l'audio aussi. Et on va pouvoir vraiment combiner différents blocs ensemble pour faire, par exemple, je sais pas, vous utilisez Zoom, Google Meet ou autre, et vous avez des backgrounds animés derrière vous, où vous avez des petits, je sais pas, un petit oiseau qui tourne autour de vous, comme si vous étiez cogné dans un dessin animé, etc. Et ben, en fait, il est capable d'utiliser aussi, par exemple, la pose de la personne sur la photo pour intégrer un objet en 3D ou une animation, pour changer le background quand on veut avoir un fond derrière soi, qui plutôt que d'avoir sa chambre qui est mal rangée. Et du coup, il y a plein de combinaisons qu'on peut faire pour faire soi-même son propre modèle qu'on va pouvoir réutiliser après. Donc, ça exporte en TensorFlow Lite pour Android ou autre, ou TensorFlow JS si on veut faire dans le web. Donc, c'est assez sympa pour s'amuser sans forcément être un expert en machine learning et en TensorFlow.
Et en fait, chaque étape, on peut voir la transformation, notamment l'image, parce que ça se voit bien. On voit la transformation, ouais. Donc on peut voir, tiens, là, il a défouté, live, là, ouais. Il a rajouté, voilà. Du coup, il y a le fameux retour, le feedback quand on code, voilà, qui est très instantané. Yes. OK, et dernière expérimentation,
Maker Studio. Ouais. C'est plus pour les bidouilleurs et développeurs qui veulent jouer, donc là, on va en parler dans un instant, vous avez entendu parler de Bard, le modèle équivalent de, on va dire, ChatGPT, mais version Google, et qui utilise le Large Language Model qui s'appelle Palm. Donc, il y a Maker Studio, qui est en fait un outil sur lequel les développeurs vont pouvoir jouer avec les prompts qu'ils veulent envoyer au Large Language Model, etc. Donc, c'est un peu le pendant pour développeurs et librement accessible. Enfin, il n'est pas encore librement accessible, mais ça, pour l'instant, il est qu'en preview, public preview. Mais c'est le pendant de ce qu'on va aussi retrouver dans l'offre Google Cloud pour les entreprises, etc. Mais celui-là, n'importe qui pourra l'utiliser et jouer avec et créer ses propres prompts.
Ensuite, il y a tout un thème autour de du moteur de recherche, enfin de l'interaction avec le moteur de recherche dans Search Lab. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de l'intelligence artificielle.
Exactement. Alors, donc, c'est vrai que ça peut être vu un petit peu hein, comme, enfin, pas que un petit peu, carrément comme une réaction aussi à Google, à Microsoft Bing.
Oui.
Ils ont fait des super intégrations avec ChatGPT, etc. Donc, il faut quand même avoir Edge et avoir un compte Microsoft, je crois, mais en tout cas, c'est la même idée, c'est-à-dire de vraiment intégrer l'intelligence artificielle générative dans Google Search. Donc, au lieu de faire de la recherche sémantique ou par mots-clés comme on le fait aujourd'hui dans Google Search, on va pouvoir vraiment poser des questions plus compliquées que ce qu'aujourd'hui Google Search est capable de
faire. Voire faire un échange, en fait.
Raffiner. Et effectivement, faire un échange et avoir un petit filet. Alors, on avait déjà quand même genre des infobox qui extrayaient des infos pertinentes, un extrait voilà d'une définition qu'on cherche sur Google. Mais là, ça va être vraiment une sorte d'intégration, une sorte de bandeau qui intègre.
Ça extrayait Wikipédia, quoi.
Ouais.
C'était beaucoup
ça. Là, ça va générer une réponse pertinente par rapport à la question et pas juste un extrait qu'on a trouvé quelque part. Ou c'est pareil, quand on utilise Google Home, là, l'assistant, il nous dit « Ah, j'ai trouvé sur Wikipédia, il dit que... » Là, ça va être vraiment du texte généré. Et
Ah, c'est « je dis que... »
Ouais. On va pouvoir jouer à Jacques Addy, non, aussi. Donc, ça va... Parce qu'en fait, les critiques qu'on voyait un petit peu dans la presse, c'était « Ouais, mais Google a peur de perdre des parts de marché par rapport aux publicités. » Évidemment, parce que, voilà, si on propose...
Il est numéro un, il ne peut que perdre un petit peu, hein, vu la masse de...
Oui et non.
Vu ce que ça brasse.
Oui et non, justement. Ouais, et oui et non. Dans le sens où, justement, ça a été pensé pour que ça fonctionne aussi avec la publicité, par exemple, avec Google Shopping, avec... C'est-à-dire quand tu vas chercher, ah ouais, je voudrais un vélo rouge électrique, il va s'intégrer aussi avec Google Shopping pour vraiment arriver à filtrer et comprendre que tel vélo, même si c'est pas écrit qu'il est rouge, il voit bien que sur la photo il est rouge, tu vois, ce genre de truc-là. Donc il va pouvoir remonter aussi des résultats commerciaux, c'est-à-dire pour lesquels les entreprises auront payé des Google Ads là, mais au moins avoir des résultats plus pertinents. Enfin, en tout cas, ça c'est quand on demande pour des produits. Après, quand on demande, je sais pas, quel est le président de la République en France, il va nous dire voilà, c'est Emmanuel Macron. Il y a pas de lien publicitaire, mais en tout cas, pour le cas où on cherche des choses, où on va chercher des produits, il y aura une intégration avec les publicités, quoi.
Bon, en tout cas, rassurez-vous, c'est en anglais et que aux États-Unis. Donc, pour l'instant,
ouais,
vous avez le temps.
Ouais. Donc, voilà, il faut s'inscrire, c'est en anglais, c'est aux US. Tout le monde n'y a pas accès de toute façon. Mais en tout cas, ils cherchent et ils essaient de réagir avec cette vague sur l'intelligence.
Mais lorsque tu vois Bing et maintenant ce qui se passe là avec Google, tu te dis mais Amazon, ils font rien, ils ont pas peur, parce que là tu parles de Google Shopping. Enfin, tu penses bien que si Amazon, parce que l'intelligence artificielle d'Amazon, c'est le degré zéro, quoi. C'est
pas. Mais je pense qu'ils doivent travailler
du vélo. Alors, je te propose des roues, tu vois. Mais c'est à peu
près ça. Bon, ils doivent bosser dessus, ils sont juste moins visibles, quoi, je pense.
Donc, on va zoomer un peu sur Palm et Barbe. Alors, c'est rigolo parce que Palm, tu l'as écrit. En fait, il y a
c'est L et M en majuscule, je ne l'ai pas écrit.
Voilà, une capitalisation assez particulière pour le comprendre. Et au début, j'étais là, Palm. En plus, ça parlait d'API. Et moi, j'étais là, mais pourquoi il utilise un Palm Pilot encore? C'est quoi le.
c'est pas Palm Pilot.
Exactement, et ça a bardé dans les produits vaisselle avec Palmolive. Donc on a annoncé voilà la deuxième version du Large Language Model Palm qu'on avait annoncé, je crois, le premier à Google I/O, peut-être bien. Donc là c'est la nouvelle version, la 2, et c'est aussi la version qui est utilisée dans Bard. Donc encore une fois, Bard n'est pas encore disponible en France et en Europe. Bien qu'ils aient élargi l'accès à Bard à 180 pays dans le monde, sauf l'Europe et le Canada aussi, je crois.
D'accord.
Ouais. Tiens, okay. Et en fait, c'est aussi parce que Google fait attention à tout ce qui est RGPD. Il y a plusieurs pays qui sont en train
L'Italie,
de réfléchir.
L'Italie, on en a parlé un peu.
L'Italie, on en a parlé.
Qui avait bloqué récemment. GPT.
Exactement.
Ils ont fait marche arrière.
Je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi. Facebook, là, enfin Meta, qui vient de recevoir une amende de l'Europe, enfin de l'Irlande, d'un milliard d'euros ou de dollars, je ne sais plus, pour non-respect de RGPD. Donc, vaut mieux prendre les devants et faire en sorte que ça fonctionne bien et que ce soit vraiment respectueux de la privacy et des données utilisateurs, etc. Donc, je pense que c'est essentiellement ça, même si je n'ai pas d'infos internes sur le sujet, qui freine un petit peu à l'ouverture. Auprès de l'Europe, quoi. Et du coup, donc, ce nouveau modèle, il est en cours d'intégration dans plus de 25 produits de Google différents, donc que ce soit Google Workspace, Google Cloud et autres. Il supporte une centaine de langues différentes, même si pour l'instant, ce n'est disponible officiellement qu'en anglais, en japonais et en coréen. Alors moi, j'ai pu l'utiliser quand même en interne en français et il fait du très très bon français. Donc c'est vraiment très prometteur, et d'ici à la fin de l'année, il devrait supporter vraiment officiellement genre 40 langues, même s'il comprend actuellement déjà plus de langues, même si on interdit pour l'instant leur utilisation. Il y a tout ce qui est capacité de raisonnement aussi qui est amélioré, donc quand on lui pose des questions, il comprend bien comment les choses se décomposent, ou des problèmes de maths, etc. Pas trop compliqué non plus, il arrive à les résoudre. Il est capable...
Je suis bluffé, moi, comment ils font ça, en fait.
Ouais.
Parce que qu'est-ce qui change dans le modèle? Ça veut dire quoi? C'est pas juste on met plus d'infos et de force brute, tu vois?
Non, en fait, donc ce qu'il faut voir à la base, donc là, depuis une ou deux semaines, je m'intéresse vraiment pas mal au sujet des large language models, et je me posais cette question-là, mais comment ça fonctionne? Parce que pour moi, finalement, c'est juste une sorte de bête méchante machine statistique qui dit voilà, la probabilité que le mot suivant ce soit ça est de tant de pourcents, donc je vais lui proposer ce mot-là. Mais comment, du coup, il est capable de se dire, quand tu lui poses une question complexe, comment il est capable, de vu qu'il fait mot par mot, comment il est capable d'avoir un truc logique sur 100 mots, 1000 mots ou 10 000 mots, tu vois, suivant la limite autorisée. Et en fait, c'est aussi parce que ces modèles-là sont réentraînés sur des sous-ensembles de données bien particuliers, de type suivre des instructions. Donc, par exemple, j'ai regardé un petit peu comment on fait des prompts compliqués, etc. Si tu veux lui dire de traduire quelque chose d'une langue vers l'autre, tu dis en entrée, c'est ça, en sortie, je veux ça. En entrée, c'est ça, en sortie, je veux ça. Et du coup, il va essayer de suivre la même structure et te sortir finalement la bonne réponse pour que ça suive le même pattern. Mais ça reste assez bluffant qu'ils arrivent, pour okay. moi, je Donc trouve, en fait, en tout cas, à générer.
Si j'essaie d'extraire ce que tu dis, ouais. c'est soit du renforcement humain, parce que tu Alors, dis, bah, voilà, quand il y a ça, et ouais. du renforcement mécanique, mais quelque part, c'est j'écris plus de tests qui vont ouais. aller forcer un chemin plutôt que le chemin naturel. Enfin, oui,
ouais.
naturel.
Il y a vraiment trois niveaux, c'est-à-dire, donc t'as entraîné sur tout Wikipédia, Internet, machin chose, ok, ça c'est une chose, qu'il est très bon dans toutes les langues, en anglais, en tout ce que tu veux. Ensuite, tu vas l'entraîner sur d'autres ensembles, d'autres datasets, comme par exemple tous les datasets de suivi d'instructions, les datasets de chat, pour qu'il soit capable d'interagir en chat, de répondre à une question bien concrète, de suivre des instructions bien concrètes. Ensuite, tu vas aussi avoir... attends, pourquoi j'avais dit 3 ? Ah oui, tu vas aussi... Enfin là, point de vue utilisateur, tu vas aussi avoir le prompt. Tu vois, on parle des prompt engineering, prompt tuning, etc. Où tu vas lui proposer vraiment le pattern de ce que tu veux qui te sorte en sortie, éventuellement lui donnant des exemples qu'il doit suivre pour suivre le pattern. Et tu as effectivement RLHF, je ne me rappelle jamais de l'acronyme, qui est le renforcement... RLHF, qui est le renforcement par les humains, où là, donc, ils continuent d'entraîner le modèle, mais donc, ils vont regarder, tiens, le modèle va générer 2-3 sorties possibles, et là, par contre, tu vas avoir des humains qui vont dire, alors, parce qu'en fait, par rapport, tu as été entraîné sur des datasets qui sont biaisés aussi, hein, ou dont les réponses peut-être qui te génèrent paraissent pas humaines ou qui sont pas celles que toi t'aurais préféré voir. Mais du coup, ils vont ajouter un nouveau biais, un biais humain, mais pour favoriser les réponses qui sont plus pertinentes pour les humains. Et du coup, tu vas avoir des êtres humains qui vont choisir parmi plusieurs réponses, qui vont proposer celle-là est mieux que celle-là, c'est mieux que celle-là. Et le modèle est réentraîné avec une reward function là, pour dire favorise plutôt ces réponses-là plutôt que les autres, pour changer les probabilités de ce qu'il va générer. Donc, tu as vraiment plusieurs niveaux. Et ensuite, tu as effectivement le prompt où là, tu peux lui dire de suivre de telle ou telle manière. Donc, tu as vraiment plusieurs niveaux, plusieurs couches pour que ça donne des réponses crédibles. Quoi.
D'accord. Et donc, il peut coder, comme ChatGPT, du coup.
Ouais. Et il y a une vingtaine de langages supportés, dont...
Groovy.
Il était dans le top 20 ou ils ont eu peur de tes... Ben,
je sais pas, mais en tout cas, il était cité, donc ça m'a fait plaisir de voir ça. Après, donc, il y aura plusieurs tailles de modèles différents avec différents noms, gecko, auteur, bison, unicorne, etc.
Ouais. Du coup, c'est pour des exécutions plus ou moins rapides et dans
des coûts aussi plus ou moins élevés, je pense. Des
contraintes, ouais, genre le téléphone voilà. versus...
Exactement, pour que ça tourne sur des... Tout à fait, sur des devices différentes. Après, ils n'ont pas communiqué sur la taille du nombre de paramètres, ce qui était comme GPT-4 chez OpenAI. Donc, ça devient un peu des infos confidentielles. Ça,
c'est de moins en moins open, tout ça, en tout cas. Hein.
Ouais. Voilà, il n'y a pas que... Alors, il y a aussi une raison hein, qui est... technique, enfin ouais, ou pratique dans le sens où donc il y a des chercheurs qui ont montré que tu peux entraîner alors plus pour des tâches bien particulières, mais tu peux entraîner des plus petits modèles et avoir des réponses aussi pertinentes, si ce n'est mieux, que des modèles très larges. Donc peut-être que tu vas avoir des modèles qui vont te paraître super balèzes et pourtant qui ont moins de paramètres qu'un autre. Donc plutôt que de mesurer c'est comme mesurer les CPU avec les gigahertz, etc. Maintenant, tu as aussi les multicœurs, etc. Il y a plusieurs manières de mesurer les choses et il n'y a pas que la taille qui compte. Il y a aussi la manière dont ça a été entraîné. Quoi.
Et c'est aussi quand tu spécialises,
ouais.
Simplifier un peu.
C'est rigolo là parce qu'on a un produit interne là, dont j'ai pas le droit de parler, mais bientôt.
Mais t'en parles quand même.
et on le bêta-testait. Et je lui ai demandé quelle est la capitale de la France et la réponse c'est je ne sais pas. C'est rigolo hein.
Ouais.
Ce que tu dis c'est tellement spécialisé, c'est très très bon dans ce modèle-là. Mmh. Mais par contre,
elle a l'air utile quelle est la capitale ton produit là.
Hein quoi ?
Elle a l'air utile ton produit.
Pour la jure, en tout cas. Et en tout cas, donc Google sort Palm 2, mais est déjà en train de travailler en fait sur le prochain modèle qui s'appelle Gemini. La grosse différence en fait, c'est qu'il va être déjà d'entrée de jeu multimodèle, multimodal, et en particulier, donc ça va être vraiment tout combiné et on va pouvoir lui donner du texte, des images, du son, du speech, quoi, de la parole. Et il va être capable de comprendre ça de la même manière. Donc, on va pouvoir vraiment faire des requêtes où tu donnes l'image en même temps que ce que tu veux faire avec l'image ou décrire ce qu'il y a dedans ou autre. Donc, ça va devenir... Autant Midjourney est capable de décrire une image, autant tu vas pas demander à Midjourney la capitale de la France, tu vois. Tandis que là, c'est vraiment mixer tous ces modèles ensemble et dans un même champ sémantique, c'est-à-dire... je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui est text embeddings, etc., pour représenter des concepts, des mots, etc., par des vecteurs multidimensionnels. Là, tu auras les mêmes embeddings, les mêmes représentations pour le mot chat ou une photo de chat. Donc, tu vas pouvoir vraiment comparer des documents, des photos, des choses comme ça avec un chat, que ce soit écrit ou que ce soit une photo, quoi.
La difficulté du multimodal, c'est qu'en fait, les modèles de ce que... Enfin, en fait, tout évolue d'une semaine à l'autre, mais... À l'époque où j'ai lu, c'est que tu avais un modèle qui était très fort pour un domaine, un modèle qui est très fort pour un autre, mais par contre, les combinés, c'était je vais pas dire de la recherche fondamentale, c'est pas fondamental, mais c'est pas de la recherche fondamentale, mais c'était encore des sujets de recherche compliqués parce que ces modèles-là, ils ont pas de, enfin, comme on t'a expliqué, c'est une grosse machine statistique fondamentalement. Du coup, n'ayant pas de sens, comment tu combines les choses, en fait? Comment tu réussis ça? Ouais. Donc ça, c'est la prochaine frontière. Ouais.
Il y a aussi, d'un point de vue beaucoup plus empirique, tu as aussi les projets comme LangChain, qui est un projet, en fait, qui permet de créer alors des notions d'outils, d'agents, de combinaisons de plusieurs large language models. Et en scriptant, en Python, je crois qu'ils ont aussi une interface en TypeScript, où tu arrives à combiner différentes choses en même temps et avoir des résultats plus pertinents. Donc, par exemple, d'interroger deux language models différents, de combiner la réponse, ou par exemple de dire, alors là, j'ai telle question, mais tu vas... Donc, il y a des patterns qui existent comme React et comme, j'ai oublié l'autre, Chain of Thought, où en fait, tu vas demander au large language model non pas de te créer, de te donner directement, de te générer la réponse directement, mais en fait de dire, mais quelles sont les étapes pour arriver à la bonne réponse? Et il va te dire, ah oui, alors d'abord, bon, comme je connais pas l'histoire, je vais d'abord aller chercher sur Wikipédia les informations sur ce fait historique. Après, je vais extraire la personne dont ça parle. Je vais ensuite faire une recherche sur Google ou n'importe quoi pour trouver la personne. Et ensuite, genre, tu veux, je sais pas, à quel âge et décédé Jeanne d'Arc ou je sais pas quoi, tu vas pouvoir combiner différentes recherches pour arriver à ton résultat. Et en fait, il va en faire la synthèse à la fin avec un large language model. Donc, tu peux arriver déjà de manière un petit peu empirique et pratique à combiner des choses, créer des agents. Et aussi un peu comme ChatGPT, là, il n'y a pas très longtemps, on en avait parlé, ils avaient créé des plugins. Donc, rajouter des plugins et savoir que le large language model est capable d'appeler des plugins pour trouver des infos. Donc, par exemple, une intégration avec Wolfram Alpha pour des problèmes scientifiques, mathématiques, avec d'autres choses, d'autres services pour avoir des résultats plus pertinents.
D'accord. Yes. Ensuite, Adobe et vous travaillez?
Ouais, il y a un partenariat, une intégration, a priori dans Barn, si j'ai bien compris, avec Adobe Firefly, qui est le modèle de génération d'images d'Adobe, qui a l'air vraiment faire des très 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 beaux résultats. Et Adobe, évidemment, comme ils travaillent avec les images depuis tellement longtemps, ils ont des partenariats, des deals, etc., avec plein d'acteurs, je sais pas s'il y a Getty Images ou je ne sais quoi, mais tout un tas d'acteurs qui proposent des images, soit libres de droit, soit pour lesquels ils ont payé des droits, et sur des datasets sur lesquels il n'y a pas de propriété intellectuelle. Donc un truc qui était assez amusant. Donc, on va pouvoir avoir cette intégration-là et générer des superbes images avec Adobe Firefly. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu et entendu parler de ça, Firefly, comme il n'est pas entraîné sur des images qui contiennent des choses de la propriété intellectuelle, etc. Par exemple, tu lui demandes de te générer une image de Pikachu en train de faire du skateboard, il est incapable de générer un Pikachu ressemblant. Il va te créer une espèce de créature jaunâtre parce que, en fait, il n'a pas été entraîné sur des images de Pikachu. Tu demandes des images de Spider-Man, il ne va pas réussir à te faire un beau Spider-Man, tu vois.
Ou le logo de McDonald's ou des trucs comme ça, quoi.
Ouais, sur des choses protégées. Donc, c'est bien, c'est protégé, libre de... Enfin, pas libre de droit. En tout cas, tu peux être sûr que tu n'auras pas de problème en utilisant les images générées. Mais d'un autre côté, bah, ça va te générer des fois des trucs un peu pourris. Si tu veux un Pikachu, c'est mort. Encore de l'AI. Google Workspace, ils ont annoncé Duet AI, donc qui est en fait toutes les intégrations de Generative AI et tout ça dans Google Workspace, donc dans Gmail, dans Docs et tout. Dans Gmail, par exemple, il y avait déjà Smart Compose là, qui permettait de compléter un petit peu des phrases et tout. Et en fait, là...
En fait, le plus gros boulot que vous avez eu, c'est de trouver les noms, là. Bard, Palm, Duet, ouais. AI...
c'est ça.
Alors que nous, c'était facile, Copilot. Copilot pour Excel, Copilot pour Copilot pour Word.
Et du coup, là, ça va être... on va pouvoir dire, tiens, génère-moi un résumé du doc, prépare-moi un plan qui va couvrir tel et tel point et tel sujet. Il va vraiment proposer des structures. Donc, par exemple, dans Gmail, ça va être du texte, mais on peut aussi lui demander dans Google Sheets, on va pouvoir lui demander, tiens, fais-moi un tableau avec un plan de, je sais plus ce qu'il donnait, un plan de sales kick-off pour nos forces de vente et tout. Il va proposer des cases, des couleurs, etc. Donc, un peu partout. Dans Slides, quand on fait des présentations, on va pouvoir générer des images pour avoir des beaux graphiques dans ces slides. Dans Google Meet aussi, donc là on en avait parlé un petit peu déjà pour Android, mais ça va être aussi dispo dans Meet sur desktop, avoir un fond d'écran personnalisé avec ses propres images générées. Donc il va y avoir plein de choses autour de ça, et on peut s'inscrire si on veut tester les nouveautés qui arrivent dans
Et ça au niveau données personnelles, parce que Google Workspace est beaucoup utilisé par les entreprises, c'est quoi les garanties d'exposition des prompts, ou pas d'exposition, mais de...
Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que, en tout cas, un des trucs que Google met toujours en avant, c'est que on n'entraîne jamais nos modèles sur des données clients. Ça, c'est sûr.
Pareil en interne, oui, pareil.
Par contre, après, évidemment, vu que toi, tu dis, genre, fais-moi un résumé de ce document-là, forcément, à un moment, tes données, enfin, de toute façon, elles sont déjà dans le document, éventuellement, d'ailleurs. Donc, forcément, les données existent et sont là. Mais en tout cas, tu risques pas d'avoir des leaks, c'est-à-dire, un autre client va voir un truc qui est généré qui ressemble à des données d'un autre ouais, client.
En généralement, les données jamais. Confidentielles de Lockheed Martin.
Ouais. Mais c'est pour ça aussi, je sais plus si cette semaine ou la semaine dernière, j'ai vu ça, il y avait Apple qui interdisait maintenant l'utilisation de ChatGPT en interne. Il y a d'autres grandes entreprises qui font ça parce que justement, certes, alors je ne sais pas si
nous, c'est interdit aussi.
Et parce que en fait, il y a certains, je ne sais plus si c'est Samsung ou autre, où ils avaient vu que je ne sais quelle IA avait généré pour d'autres personnes des choses qui venaient certainement de données confidentielles de l'entreprise, quoi. Donc là, c'est un peu les boules.
Alors nous, en interne, on est en train de vivre un moment assez fantastique hein, depuis quelques mois. Chaque semaine, on a des talks internes sur l'IA au sens large. Enfin, vraiment, il y a de tout. Chaque jeudi, on est là à regarder nos trucs. Et à chaque fois, les 2-3 slides du début, c'est pas de données clients, pas de données clients. Pas de données clients. Tu vois, c'est vraiment essayer que la boîte monte un peu en compétence sur tous ces domaines qui sont assez récents. Hein. Et vraiment, tant qu'on n'a pas trouvé le truc, tu vois, le filtre à passoire là, c'est ouais. pas de données clients. On a même eu un truc rigolo sur votre client. Moi, c'est la boîte XYZ. Vous prenez votre document Word, vous changez le nom de la boîte par Toto, vous changez le nom du mec par Titi, et puis à la rigueur, oui, mais surtout,
pas de données clients.
Et nous, c'est vrai qu'on a, du coup, à chaque fois dans nos présentations et autres, on a un slide sur ce qu'ils appellent, du coup, Responsible AI. Donc, c'est non seulement l'aspect données clients, mais essayer, tu vois, pour tout ce qui est diversité, etc., de pas générer des trucs pro-blanc, pro-machin. Donc, c'est un truc qui est front and center, hein, comme on dit. Et du coup, il y a même un acronyme RAI. Donc, pendant un moment, je voyais, moi, je suis sur des chats et tout ça, sur l'intelligence artificielle, sur les large language models et tout ça, mais et je voyais RAI, mais à propos de RAI, mais c'est quoi RAI? Et puis, c'est, ah oui, Responsible AI.
En tout cas, si vous nous entendez dans ce podcast et si vous faites de l'IA, du chat GPT, machin, voilà, pas de données perso pour l'instant. Voilà. On verra plus tard.
Alors on va passer finir
avec Google Cloud.
Plus au développeur, ouais.
Ouais. Donc Google Cloud, pareil chez nous, Generative AI de partout, évidemment. Donc il y a déjà, alors là c'est pas vraiment Generative AI, mais une news, on va dire hardware, il y a des nouvelles VM dans Google Compute Engine, les VM A3, qui vont avoir les nouveaux GPU H100 de NVIDIA, qui sont les machines de course pour pouvoir générer, entraîner des modèles de machine learning, faire de l'inférence, etc. Ou peut-être plus pour l'entraînement d'ailleurs que pour l'inférence. L'entraînement des modèles de machine learning et ces cartes graphiques-là, ces GPU-là peuvent faire 26 exaflops donc d'opérations par seconde. Je ne sais même plus combien c'est exa, c'est des millions de millions ou c'est des milliards? Non, ça doit être des millions de millions d'opérations par seconde, je sais plus. D'une connerie, bon, peut-être. Mais bref, c'est des vraies bêtes de course pour l'entraînement de modèles de machine learning. Et alors je ne sais pas si on n'a pas entraîné ça là-dessus, nous on a entraîné nos modèles sur des TPU, des Tensor Processing Unit, nos propres, on en est je crois à la quatrième version d'ailleurs, de nos propres processeurs de machine learning, pour entraîner donc des nouveaux modèles de machine learning. Il y a trois modèles qui ont été annoncés. Il y a Imagen, ou Imagine, je crois, maintenant ils disent de le prononcer Imagine, là, comme le verbe imaginer, pour générer des images, Cody, pour générer du code, et Chirp pour la génération, je sais jamais, c'est speech to text ou text to speech, ou ça fait les deux, peut-être, je sais plus, pour la génération ou compréhension de la parole. Donc c'est vraiment des nouveaux modèles surpuissants et qui sont quand même basés aussi hein, sur les mêmes bases que Palm et tout ça.
Juste pour info, EXA, ouais. c'est le trillion.
Et le trillion,
c'est 10 puissance 18.
Ah oui, non, donc c'est milliards de milliards, alors, ok.
Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, donc si vous allez sur Wikipédia, la liste des préfixes internationaux standardisés, du coup, et leur date, qu'elle a, donc déca, kilo, c'est 1795, méga, c'est 1960, jusqu'à Hexa d'ailleurs, de méga Hexa c'est 1960, ensuite 1975 Hexa Peta, ensuite en 91 Zeta Iota 10 puissance 24,
ouais.
Et en 2022 Rona et Keta qui sont 10 puissance 27 et 30 respectivement.
Et on en avait, c'est moi qui avais rajouté la news dans un des épisodes des Cascodeurs l'année dernière d'ailleurs. C'est vrai, de nouveaux préfixes.
Et il y a la même chose dans les petits aussi, Ronto, Keto.
Oui, ouais, c'est ça.
Voilà.
Donc dans ce qu'ils appellent Vertex AI, c'est une sous-partie de Google Cloud avec tous les trucs de machine learning. Donc il y a ces nouveaux modèles-là. Aucun rapport
avec le projet, Vertex. La librairie réactive, c'est VERTEX.
Ouais, c'est pas le même. Et il y a aussi donc un nouveau truc qui s'appelle Model Garden. On va pouvoir avoir accès à ces modèles de machine learning. Mais pas que ceux de Google, aussi certains modèles open source. Donc pour ceux qui s'intéressent au large language model, vous avez sans doute entendu parler de Hugging Face, par exemple. C'est un peu le GitHub des... autant sur GitHub, tu vois, tu partages du code, bah sur Hugging Face, tu vas partager des modèles, des poids d'entraînement de tes modèles, des datasets, etc. Et du coup, le Model Garden, c'est un petit peu l'intégration similaire à Hugging Face, mais dans la console de Google Cloud. Il y a donc l'ajout des embeddings, les mêmes embeddings pour le texte et l'image. Donc comme je disais avec l'exemple du chat, le mot chat et l'image chat, ça va être représenté par le même vecteur. RLHF, on a parlé tout à l'heure de renforcement, de Reinforcement Learning from Human Feedback, voilà c'était ça l'acronyme, je me rappelle jamais, qui est intégré aussi à Vertex AI. Donc on va pouvoir non seulement faire du fine-tuning de modèles dans Google Cloud, enfin, on pouvait déjà le faire, mais en plus, on va pouvoir intégrer cette boucle de feedback humaine pour améliorer la qualité de et la non-toxicité de ce qui est sorti par le modèle. On avait parlé de Maker Studio, qui était plus direction des tinkerers, des développeurs, des bidouilleurs, etc. Donc là, on a Generative AI Studio, qui est un petit peu pareil, mais intégré à Google Cloud, où on va pouvoir créer ses propres prompts, etc.
C'est quoi Zero Shot, One Shot?
Zero Shot, One Shot, Multi Shot, c'est ce que je disais, c'est-à-dire Zero Shot, tu poses la question directement, tu attends une réponse. One Shot, c'est-à-dire tu lui dis, je voudrais que tu me traduises les mots en anglais, en français. Donc par exemple, le mot Hello, tu me le traduis en Bonjour. Et ensuite, bah, il va te donner la réponse. Donc tu vas lui dire, traduis-moi ça. Et Multishot, tu lui donnes vraiment plusieurs exemples et un peu le format, le pattern de ce que tu veux. C'est-à-dire input égale ça, output égale ça. Tu lui donnes plein d'exemples comme ça. Et à la fin, lui, il va te sortir, vu qu'il a vraiment suivi le même motif, il va se sortir output égale ça. Donc c'est vraiment pour vraiment le diriger et formater les sorties et faire en sorte qu'un modèle qui est assez généraliste soit plus appliqué à ton domaine ou à ta question. Donc ça permet voilà, de créer les différents prompts pour ça. On avait parlé de Duet AI. En fait, on va aussi du coup intégrer ces nouveaux modèles de, par exemple, le modèle Code pour le code. Ça va aussi être intégré aux outils de développement. Donc que ce soit Cloud Code, qui est le plugin dans VS Code ou IntelliJ, pour pouvoir coder en comprenant et connaissant Google Cloud. Du coup, le modèle codé a été entraîné, fine-tuné sur la documentation de Google Cloud, sur les codes samples, etc., pour que ça te donne et génère du code quand tu interagis avec Google Cloud qui soit pertinent dans ton IDE, etc. Et aussi dans Cloud Workstation, ce qui est ta station de travail dans le cloud. Et il y a aussi, ils ont montré, donc il y a un produit qui s'appelle AppSheet, donc c'est un peu la mode des, vous savez, les plateformes no-code, low-code, etc. Ils ont montré un chatbot dans Google Chat, où tu discutes avec un bot AppSheet, et tu lui dis, ouais, je voudrais que tu me génères une application de gestion de notes de frais, et je veux que dans les notes de frais, il y ait ça. Et il va te générer, en fait, une application que tu vas pouvoir exécuter, lancer, utiliser sur ton téléphone portable automatiquement, juste en chattant. Tu vas pouvoir faire des applis comme ça en discutant. Et pour finir, Firebase aussi, donc, qui est un petit peu à part, mais qu'on peut intégrer avec Google Cloud, qui a annoncé ses différentes nouveautés. Donc, il va y avoir des extensions Firebase pour intégrer avec l'API Palm. Il y a cette notion justement d'extension, il y a encore plein d'autres extensions. Et puis, on va pouvoir utiliser du Python pour les fonctions. On peut écrire des fonctions dans Firebase, hein, c'est un back-end à ce service. On pouvait en créer qu'en JavaScript, maintenant on va pouvoir en créer en Python également. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, il y a des raffinements aussi sur Firestore, la base de données NoSQL. Par exemple, faire des comptes, des queries avec des disjonctions, des OR, etc., des order by, et tout ça. Donc, des améliorations, en tout cas, pour faire des queries un petit peu plus avancées, version NoSQL. Et aussi, j'ai oublié l'intégration avec Terraform pour provisionner ces environnements. Et aussi une intégration plus poussée avec... en fait, quand on veut déployer avec Firebase, il va reconnaître que, ah tiens, là, ça ressemble à du code de back-end pour Nuxt, JS, pour SvelteKit, pour Astro, etc. Et aussi, je crois qu'il commence à regarder côté Python aussi pour générer des choses, pour générer automatiquement un container sur CloudRun qui va faire tourner un back-end pour notre appli front-end Firebase, quoi. Donc voilà, grosso modo, les nouveautés de Firebase.
D'accord. Ouais.
Et rapidement, on finit sur le web.
Ouais.
Donc j'ai mis quelques liens aussi sur les nouveautés autour de Flutter 3 qui est sorti et Dart 3.10. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, à vrai dire. y a des raffinements au niveau du langage, dans le pattern matching et tout ça, et Flutter 3, un des gros trucs annoncés, je crois que c'est l'intégration avec Material Design 3, et peut-être que Flutter pour le web et GA, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ils ont parlé de WebAssembly à Google I.O., donc les nouveautés, c'est... donc il n'y a pas que Google, il y a plein de gens qui travaillent sur WebAssembly, mais ils ont parlé de WebAssembly, et par exemple des propositions autour de, donc dans WebAssembly ils l'étendent avec des nouvelles propositions au fur et à mesure, par exemple l'intégration de la garbage collection. En fait, on peut compiler pas mal de langages vers du WebAssembly, du Rust, du C, etc., mais pour les langages qui ont des garbage collectors comme Java, Kotlin, Groovy ou autre, Go, c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, là, ils ont parlé en particulier de cette proposition de garbage collection qui a l'air d'être en voie d'adoption pour WebAssembly. Ils ont parlé aussi de WebGPU, qui avait d'ailleurs, c'est un de mes collègues, j'avais suggéré l'idée un jour qu'on fasse une interview pour les cascodeurs. Je pense qu'on va la faire. Faut que je me botte les fesses pour le faire. Celui qui a, enfin, des instigateurs de la spec WebGPU, donc qui est un peu la nouvelle version d'OpenGL pour le web après WebGL, quoi, qui fonctionne bien sur les GPU et tout ça. Donc là, qui est enfin en mode finalisé et qui devrait arriver dans les autres navigateurs autres que Chrome. Mais en tout cas, les dernières versions de Chrome. Ça y est, WebGPU est activé par défaut.
Et Quentin Wallace, pour info, c'est le fils de Sylvain Wallace.
Exactement. Et donc, il est au bureau de Google Paris, et voilà, et on se connaît bien. Ouais. Et c'est marrant de se dire, ah putain, j'ai un collègue chez Google, je connais ton père.
Je connais ton père.
Je suis de ta génération. Ou c'est comme, je ne sais plus si je l'avais dit dans le podcast il n'y a pas longtemps, quand on avait parlé de... Non, si, je l'avais dit à l'épisode, quand on avait enregistré en live ou pas, c'est... Donc, il y avait un petit jeune qui venait au stand Google papoter. Il y avait Sylvain, on papotait, on était un peu les vieux de la vieille qui donnait des enfin, il me posait des questions un petit peu sur des, il voulait des conseils sur comment faire évoluer sa carrière, qu'est-ce qui est bien comme sujet à explorer, etc. Et c'est là que, je sais plus, on avait parlé d'un truc et non, oui, c'était pour les débuts de Java. Et c'est là que, donc nous, on avait commencé 95, 16, 17, au tout début de Java. Moi, j'avais dû commencer plutôt 97, je crois, et Sylvain, 95, dès que c'était sorti. Et c'est là qu'il me dit, le gamin, le genou, quoi, il me dit, ah ouais, bah ouais, non, bah non, moi, j'étais pas encore né. Et là, tu prends un méga coup de vie. Ah oui, c'est vrai que c'était il y a 25 ans. Bon, ok. Et donc, ouais, bref, parenthèse fermée pour finir sur Baseline. Alors, vous savez que quand on fait des développements, vous vous rappelez l'époque, justement, tiens, pour sortir les vieux trucs, c'est tourne sur IE5, mais pas sur enfin,
c'est vrai, oui.
Et, non, mais il y avait plein de sites qui étaient optimisés pour Firefox 4 et tout, ou sur IE, ou etc. Et aujourd'hui, donc, il y a des sites comme, caniuse.com, je crois, où tu peux voir, bah tiens, telle nouvelle API web, c'est super, je voudrais l'utiliser, et puis après, tu es obligé de regarder. Alors, c'est disponible dans la version 133 de machin, mais pas la version 92 de tel autre navigateur, ça devient compliqué. Donc, tu as des polyfills, tu fais des if, window.machin, support telle API et tout, c'est compliqué. Et là, apparemment, les gros acteurs, Apple, Mozilla et Google, se sont entendus sur ce nouveau projet, on va dire, qui s'appelle Baseline, qui va être une manière de dire, en tout cas pour les, je pense que ça doit être essentiellement quand même pour ce qu'on appelle les Evergreen Browsers qui se mettent à jour, etc. Mais on va pouvoir savoir que dans tel niveau de navigateur, donc ce sera un niveau de navigateur, on va avoir telle et telle API, mais on va plus être obligé de regarder quelle version spécifique de tel navigateur supporte quoi. Donc ça va être une vue peut-être un petit peu plus haut niveau sur ce qui est supporté dans les navigateurs, et on va dire, ah oui, c'est baseline, je sais pas, 33, je sais pas trop comment ça marche, la numérotation, pour savoir que, bah, ça, telle fonctionnalité est disponible, et on va pouvoir coder des applications web avec telle fonctionnalité dont on a besoin. Pfiou, voilà. Il y avait pas mal de choses à Google I.O., hein.
Bah, non, il y a eu qu'un truc, de l'IA.
Et IA.
Je pense que s'il y a 50 ans, T'as pas tapé tes pros, t'as loupé ta vie, quoi. Punaise.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça.
Incroyable ce qui s'est passé en si peu de temps.
En si peu de temps, ouais. Ouais. Ça a tellement évolué, c'est ouf.
Et du coup, philosophiquement, vous dites, ouais, on est vraiment à un virage fondamental et le monde va changer, ou...
Pour moi, ça reste quand même... Donc déjà, je m'oppose un peu à cette idée qu'on va tous perdre notre job, etc. Parce que, je veux dire, dès qu'il y a eu des révolutions technologiques ou industrielles ou autres, petit à petit, les sociétés s'adaptent, les jobs évoluent. Ou, par exemple, en discutant avec un collègue dont le fils ou la fille travaille dans une école de... je crois que c'est les Gobelins à Paris d'art 3D, graphisme, d'animation vidéo, etc. Mais eux, ils sont fans de l'intelligence artificielle parce que ça les aide, c'est un outil en fait qu'il va falloir s'approprier, mais c'est un outil, ça va nous aider, ça va complémenter ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Moi, je vois plus comme ça, comme une aide, et je le vois, alors même si effectivement il y a eu des grosses améliorations, des grosses évolutions récemment, ça reste de manière incrémentale, hein, je veux dire, on est encore loin. Enfin, dès que vous utilisez ChatGPT ou Bard ou quoi, enfin, vous voyez qu'il y a quand même du progrès à faire avant d'avoir quelque chose qui peut être vraiment produit par un humain ou vraiment factuel comme ce qu'un humain peut potentiellement produire. Alors, il y a beaucoup de merde, hein, sur le web qui sont générées aussi par les humains. Et ben oui, il y aura aussi plein de merde générée par les IA. De la même manière, il faudra faire un peu de fact-checking ou... Par exemple, il y avait sur Twitter, j'avais échangé avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais et ton IA, là, genre, si je lui demande c'est quoi la différence entre Shenandoah et c'était quoi l'autre, et Zero GC, et est-ce qu'il va donner une bonne réponse ?» Et je regarde, ah ouais, elle a l'air pas mal, la réponse. Et après, je lui donne la réponse qu'il m'avait générée. Et après, il me dit « Ouais, non, c'est pas mal, mais par contre, alors, en fait, c'est disponible que dans telle version, mais alors, c'est pas tout à fait exact, parce que c'est vrai que si tu regardes de plus près, la big picture est là, tu regardes de plus près, tu t'aperçois que c'est pas tout à fait exact ou qu'il y a encore quand même des choses à revoir, quoi. Donc,
mais Microsoft, là, Satya a fait une annonce là il y a quelques mois et j'aime bien moi.
Son prénom, quoi.
J'aime bien le terme copilote en fait parce que il dit ça, avec raison, c'est que l'IA elle est là depuis 10 ans. Mais elle est en mode autopilote, hein, c'est-à-dire que YouTube te pousse des vidéos, Google te pousse de la pub. Forcément, c'est basé sur tes préférences, etc., etc. Donc, on est vraiment dans. Ça fait 10 ans qu'on est dans le mode autopilote de l'IA, et là, on est dans le mode copilote. Et si tu penses au copilote, comme tu dis, Guillaume, forcément, il y a des métiers qui vont bouger. Il y a certainement des métiers qui vont disparaître, bien sûr. Mais forcément, comme toute évolution et révolution, ça va créer de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vois en interne, il y a toute une ébullition, hein, vous imaginez bien, mais donc c'est pas la perte de boulot, moi, qui me fait peur, pas du tout. C'est plus, effectivement, on voit bien les 2-3 boîtes à la Microsoft, à la Google, vous imaginez bien que ces boîtes-là, elles font super gaffe à tout. Tu parlais de responsable IA, mais nous, le moindre truc, il faut que ça soit validé par un machin bidule. Donc, il y a quelques boîtes qui font super gaffe, mais vous imaginez bien aussi qu'il y aura plein de boîtes qui feront pas gaffe, qui feront exprès. On se souvient de Cambridge Analytica, etc., etc. Donc forcément, il y aura des débordements. Et moi, c'est plus l'usine à fake news, à fake vidéo, à fake image. Lorsqu'on voit que l'être humain croit en à peu près tout et n'importe quoi, c'est plutôt ça qui me fait flipper, parce que les repas de famille, déjà durant le Covid, c'était un peu touchy avec le Wi-Fi et la 5G. Je pense que ça va être exponentiel. C'est juste ça, moi, qui me fait un peu flipper. Je me dis que...
Et à Google I.O., d'ailleurs, il y avait quand même Sundar Pichai là, qui parlait aussi du fait que on travaillait à intégrer une sorte de watermarking ou de stéganographie ou je ne sais quoi pour montrer que ça, c'est du contenu généré. Et par exemple, quand tu vas faire une recherche, en tout cas, si tous les grands acteurs s'y prêtent et se prêtent au jeu, quand tu vas faire une recherche, ils montraient ça sur Google Search, le nouveau Google Search avec Generative AI intégré, tout ça, il va te dire, oui, cette image a été générée par une intelligence artificielle, donc tu sauras que c'est pas une vraie photo. Mais voilà, il faut que les acteurs...
Et puis surtout, il est dit, ah bah tiens, on l'a vu la première fois cette image sur tel site,
et on l'a vu à
tel copié. Ça te donne un peu la perspective, tiens, c'était l'AFP ou c'était 4chan
Mais bon, vous savez très très bien qu'il y aura plein de grosses boîtes qui vont jouer le jeu. Mais après, il y aura plein de trucs open source pour le bien et pour le mal. Et ça va faire comme d'hab, hein. Ça va faire, oui, mais cette information, elle est générée par Google ou Microsoft, qui sont les boîtes du mal, qui sont en train, etc., etc. Regardez, là, le monde libre, où tout le monde devient journaliste citoyen, où tout le monde est un peu
photographe citoyen. Même la petite start-up là, qui avait fait justement le clone de voix, tu peux le faire déjà, faire des fausses voix qui sont relativement réalistes. Donc pour les fake news, c'est top. Et eux, par contre, tu vois, autant nous, on peut faire des custom voice models chez Google, mais c'est que des clients particuliers ou des marques bien vérifiées. Tu vois, c'est pas n'importe quel développeur qui a accès à ça. Moi, je peux pas aller dans la console Google Cloud et tester et générer une voix à partir de n'importe qui. Donc, ils font vraiment super gaffe à ça. Je pense qu'ils ont peur des procès et tout.
Mais tout le monde ne fera pas super gaffe. Enfin, c'est ça.
Ben voilà. Ouais. Et c'est pour ça, genre cette petite start-up.
C'est quoi qui change ? Parce qu'il y a pas mal de choses que vous décrivez. Alors, il y a des choses qu'on ne savait pas faire parce que ça demandait trop de travail. Mais tu as des choses où, en fait, quand tu dis il va pousser le bon truc, expliquer le bon machin, c'était en gros ce qu'on appelait, c'est l'algorithme qu'on va choisir, tu vois, mais ou qu'on va écrire. Et du coup, là, le chiffre, c'est qu'on n'écrit plus l'algorithme, qu'on lui balance de la donnée. Mais après, il y a quand même un méta-modèle à choisir, le méta-algorithme qui va te donner le meilleur info, le reinforcement. Donc, en fait, c'est un nouveau métier de développement, une nouvelle branche.
Ouais. Après, ça reste peut-être quand même toujours dans les mains des data scientists, des chercheurs en IA, etc. Je pense que c'est pas encore descendu.
Mais ça se démocratise. Comme vous, moi je traîne là-dedans depuis quelques décennies et fut une époque l'IA, c'était que dans les livres de science-fiction. Après, c'était passé aux mains de mathémateux où on comprenait rien.
Les systèmes experts aussi, voilà. Des années 90.
Enfin, je vois la facilité. On a des outils internes qu'on est petit à petit en train d'ouvrir. Mais demain, oui, ça sera super facile pour vous de prendre vos données à vous, de vous faire votre modèle à vous. Enfin, vous imaginez bien que tous nos clients qui font de l'assurance, voilà, imaginez les documents Word de 15 000 pages, des PDF partout. Vous pensez bien que tous ces clients-là, ils veulent avoir leur modèle à eux, hyper entraîné sur leur métier à eux, pour avoir la bonne réponse. Et tu peux même aujourd'hui dire à ton IA n'hallucine pas. C'est-à-dire que tu préfères qu'elle te dise je ne sais pas plutôt qu'elle hallucine et qu'elle génère un truc que tu penses que c'est vrai puis en fait c'est pas vrai.
Donc, tu peux ou comment tu fais quoi? Parce que c'est justement le problème de.
Il y a différentes choses. T'as déjà le système de renforcement par feedback humain, là, RLHF, dont on avait déjà parlé. T'as ça d'une part. Tu as aussi, donc, quand tu utilises les large language models, t'as une notion de température, en fait. Alors, je sais plus si c'est quand c'est 0 ou quand c'est 1. Quand c'est 1, il va te proposer des trucs super créatifs, fumeux, complètement inventés. Quand c'est 0, il reste le plus factuel possible. C'est-à-dire, en fait, donc, comme on disait, hein, c'est un système
le plus proche
probabiliste.
De la copie, en fait. Il fait plus de la copie.
Ouais. Et c'est probabiliste. C'est-à-dire, il dit, alors, j'ai le choix. Le mot prochain a telle probabilité d'être ça, 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 ça. Et t'as plusieurs paramètres sur lesquels tu peux jouer, les top K et j'ai oublié l'autre, le nombre maximum de tokens. Donc tu peux dire je veux restreindre sur un certain nombre de choix les probabilités et je ne veux les probabilités qui sont que au-dessus de temps. Et en plus tu peux donner la température avec un curseur et dire alors 0, je veux pas que tu sois trop créatif. 1, je veux que tu sois à fond créatif. Et du coup en combinant toutes ces choses-là, t'arrives vers plus de factualité, je sais pas comment on dit, mais
ouais, voilà, c'est un gradient, c'est pas je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas, il sait pas qui sait pas en fait. Enfin, en tout cas, le large language model de base, il a pas cette notion. Quoi.
Alors, pareil, ça, j'en ai dans les API qu'on va avoir dans Google Cloud, tu vas être aussi être capable d'avoir ce qu'ils appellent la récitation en anglais, recitation, de voir où sont les sources, d'une part, des données, et la deuxième chose, de voir aussi, par rapport à certains critères responsible AI, si c'est, enfin, ou si c'est violent ou pas, raciste ou pas, ou factuel ou pas. Donc, tu vas voir aussi des choses qui ils vont te retourner une probabilité qui va t'informer sur la véracité ou le côté factuel de tes réponses et que tu pourras vérifier avec des sources aussi. Donc, entre ça, le renforcement humain, etc.
En fait, la complétion, hein, puisque on entre un prompt et ce qui sort, c'est une complétion, on appelle ça une complétion, c'est du mot à mot, vous savez.
Ouais.
Donc, c'est quelle est la probabilité d'avoir un mot après tel mot. Et en fait, si il hallucine, c'est parce qu'on le fait exprès, sinon ça serait super chiant en fait. Parce que si c'est il était une, bah si la probabilité d'avoir foi est plus haute, et si on prenait à chaque fois les probabilités hautes, bah il y aurait toujours il était une fois, et ça serait super chiant. Donc en fait, les modèles l'hallucinent parce que ils connaissent les probabilités et ils vont surtout éviter les probabilités fortes. Sinon, ils génèrent rien, en fait. Sinon, la probabilité d'avoir foi après il était est extrêmement haute. C'est pour ça que les modèles l'hallucinent, sinon les prompts seraient, les complétions seraient un peu chiantes.
La partie, et aussi, des fois, tu peux donc créer des prompts de telle sorte à ce qui, comme tu disais, tu sais, qui vérifie si c'est factuel ou pas, ou tu lui demandes. Parce qu'en fait, des fois, tu peux lui demander est-ce que la réponse que tu as dit est factuelle, et il peut te dire oui ou non, tu vois. Et un petit truc qui était marrant pour la petite histoire que j'ai essayé en interne, donc il y a le Bard, donc moi j'y ai accès parce que je suis sur un ordinateur Google, donc même si je suis pas aux États-Unis, tout ça, je peux quand même y avoir accès. J'ai essayé sur le Bard, la dernière version qui est déployée, qui est accessible donc aux Américains, etc., en anglais. Je lui ai posé une question, j'ai posé la même question au modèle Palm 2 qui est intégré dans Google Cloud. Mais lui, il n'avait pas encore tous les raffinements et perfectionnements humains par rapport au biais, par rapport à un Responsible AI, etc. Et quand j'utilise l'API de Google Cloud intégré dans Google Cloud, qui pourtant utilise le même modèle, moins certains raffinements, je lui demande par exemple quel est le nom du premier éléphant à avoir marché sur la Lune. L'API dans Google Cloud va me dire il s'appelle, je sais plus quoi, Toto, et il a marché sur la Lune en 69. Oui, c'est la bonne date. Je demande à Bard quel est le premier éléphant qui a marché sur la Lune. Lui, il me dit non, il n'y a aucun éléphant qui a marché sur la Lune. Par contre, le premier homme est machin. Du coup, là, il va vraiment y avoir l'importance de cette couche de fine-tuning avec feedback humain pour pousser encore plus le côté factuel. Parce que le même large language model, s'il n'a pas ces raffinements-là, il va pouvoir halluciner de ouf. Mais par contre, à Bard, je peux quand même lui demander. Là, je suis en train de jouer avec une petite expérimentation pour faire générer des petites histoires pour enfants. Tu sais, tu choisis un personnage, un lieu, etc. Et il va te générer une histoire. Et ça marche pas mal. Je trouve ça assez fascinant. Je lui dis, tiens, donne-moi l'histoire d'une princesse qui va sauver la planète des étoiles filantes avec les aliens, machin. Il va te le faire. Donc, il est quand même capable d'halluciner malgré tout. Mais c'est parce que tu auras demandé explicitement, je veux un truc, une histoire, tu vois. Donc, ça dépendra encore comment tu crées tes prompts et tout, et si tu poses des questions.
Et tu récupères ça, tu le donnes à Dali ou Midjourney, et t'as ton livre. Et t'as
exactement.
Ton livre pour rapport.
Mais
t'as le texte en fait, et les
images. Voilà, après, exactement ça, c'est le producteur et c'est super.
Exactement ça. Et en fait, alors déjà, il y a des gens qui vendent des bouquins complètement générés comme ça par IA. Et là, en fait, j'aimerais proposer un talk pour des conférences. Et mon idée de démo, c'était justement faire des histoires pour enfants qui génèrent et l'histoire. Et les images en fait qui vont avec.
Et la avec, musique grâce à.
Ah oui, ce serait génial. Ouais. Mais bon, là, je ne sais pas si j'aurais accès, mais là, ce serait vraiment au top du top. Quoi.
Bon, messieurs, on est grave, on a grave étendu. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça ne faisait pas trop pub Google. En tout cas, la partie, la conversation à la fin était vraiment super intéressante.
On a un peu cassé de sucre, non, sur Google, un petit peu quand même. On aurait pu le faire un peu plus.
Et voilà, bah dites-nous ce que vous en pensez sur, avec bienveillance, mais de ce que vous en pensez sur la mailing list des Cascodeurs ou sur Twitter. Et puis à la prochaine fois. Allez, ciao.
Bisous, tout le monde.
Ciao.
thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.